Bonjour et bienvenue dans Le Catering, un podcast où on parle d'improvisation théâtrale bien sûr, mais pas seulement. Une émission créée et présentée par Jeanne Chartier et Baptiste de Oliveira.
Bienvenue au Catering.
Cette classasse pour démarrer, hey. Là, en mode crooneuse.
Jazzy, Scatman, hey. Scatwoman, on était bien là.
Salut. Hey,
bravo.
On s'entraîne depuis longtemps avec Sophie. Hein.
Franchement, là, vous pouvez monter un petit duo. Hein.
Je crois que
on avait les Free for the Ladies. Ils ont, franchement, limite, vous êtes égalité là.
Moi, je crois que ce générique fait apparaître les personnalités des gens d'un coup.
Ah ouais, non,
c'est
mais...
un moment où j'ai toujours été
jazzy. Dans des...
les vibes. Sherif Anogalo.
C'est mon côté R&B.
C'était et bah,
bonjour, bienvenue, entrez, installez-vous au Catering. Alors, comme d'habitude, on est en live sur Instagram pour que vous puissiez poser vos questions à nos invités. Et dans un second temps, on sera à découvrir sur les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, nos deux invités sont Valentine Nogalo et Sophie Brossard. Comment ça va?
Ça va bien.
Ah oui,
on est tellement polis qu'on se laisse répondre chacune.
Ouais, non, mais après toi.
Non, après toi. Non,
mais après toi. Non, mais j'ose pas. J'ose
non, mais
pas.
Vraiment,
non,
après
mais je suis
toi.
Désolée.
Bon, d'accord, bon, j'y vais alors. Bah écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être là, de débarquer dans cette jolie cave aménagée.
C'est vrai, on ne cache à personne, c'est une cave. Ouais. Mais on s'y croirait pas
mais
dans
non,
une cave.
Pas du tout.
Formidable.
Non.
Merci, Val.
Un soleil au-dessus de nous, moi j'aime beaucoup.
Ouais. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Valentine Nogalo, tu es comédienne, improvisatrice, prof d'impro et bientôt coach professionnel. Tu es en formation, là, tu profites du temps un peu d'arrêt pour te former à quelque chose de neuf.
Complètement.
Trop bien, ouais. Bravo. On a également avec nous Sophie Brossard, donc quand même qui est, tenez-vous bien, ingénieur chercheur en microscopie électronique. Donc ma première question, c'est quand même, on dit ingénieur chercheur, on dit pas ingénieur chercheuse?
Moi, je sais pas.
Ah ouais, voilà.
Moi, j'ai fait de la science. C'est parce que
je fais pas de la littérature.
Scientifique. Moi, je dis
laisse
scientifique.
Laisse-moi tranquille.
Comme ça, c'est
j'écris des chiffres, pas des lettres. Laisse-moi tranquille. Et mais t'es également improvisatrice. C'est aussi comme ça qu'on te connaît dans ce milieu. Et t'es aussi prof d'impro, puisque toutes les deux, vous donnez des ateliers quand on vous le demande et puis quand vous en avez le goût. Voilà. Ça, c'est le côté professionnel de vos deux personnalités. Mais ici, dans le casting... Ah, mais décidément, aujourd'hui,
C'est un casting.
Ouais, c'est un casting, c'est pour savoir.
J'espère que vous êtes prêtes.
Oh my god.
Vous partez aux États-Unis
pour le premier rôle.
Je veux bien.
Tournage à Miami, 10 jours. Voilà, un petit peu de rêve dans nos têtes. Donc, dans le catering, on a la tradition de vous faire vous présenter en croisée. C'est-à-dire que Sophie, tu vas nous présenter Valentine, mais donc sous cet angle plus humain. Hein. On laisse de côté le CV professionnel. Et ben Val, tu lui rendras l'appareil tout à l'heure. On va donc commencer avec
on laisse
toi,
de
Sophie.
Côté les strass et les paillettes.
Ouais, c'est ça. C'est qui, Valentine?
Ben, Valentine, en fait, si, c'est ça. C'est des strass et des paillettes.
Tu vois,
c'est des boucles. C'est un coup de vent dans ta face. Et tu t'es dit, waouh, qui vient de passer. Et c'était Val. Non, mais vraiment, pour moi, Valentine, c'est d'abord une énergie de ouf quand elle rentre dans la pièce. J'ai eu la chance de jouer avec elle sur différents spectacles. J'ai même eu la chance, il y a très longtemps, parce que je suis très vieille, de lui donner des phrases d'impro.
Oui, je me souviens.
Tu vois, mais, oui.
Dans les ateliers impronautes ou ailleurs?
Les ateliers impronautes, ouais. Je crois. Ouais. Et non, bah, c'est quelqu'un qui a juste plein d'énergie et plein d'envie et qui te donne envie aussi. Donc voilà, pour moi, Valentine, c'est ça.
Tu donnes envie. Valentine, c'est quelqu'un qui donne envie.
Sophie, tu m'émeus beaucoup.
T'as les joues un peu roses, hein?
Ah, mais je crois que c'est le vin rouge, ça.
Ah d'accord, autant pour moi.
Non, il y a de Sophie aussi, parce que c'est... Ouais, merci. Ça me fait très plaisir d'être décrite comme ça. Et
tu t'y retrouves?
Oui, je pense que j'ai pas mal d'énergie, mais je suis touchée. Je suis beaucoup touchée. Merci.
Bah écoute, tu vas pouvoir lui rendre l'appareil ou je ne sais pas, peut-être pas. Si tu devais nous présenter Sophie.
Sophie, c'est quelqu'un de déterminé, d'engagé dans ce qu'elle fait, de fonceuse. J'ai eu la chance aussi, du coup, de partager la scène avec Sophie, que ce soit dans Facsimilé, dans d'autres projets artistiques. Et ouais, moi j'admire beaucoup Cette détermination, je la vois un peu comme un bulldozer qui vient ouvrir des portes.
Ah ouais. Et attends, parce que les bulldozers normalement ça défonce les portes, mais elle, elle les ouvre quoi.
Alors, c'est moi, toute je sa suis dextérité.
Un bulldozer délicat.
Oui, c'est ça.
Non, en fait, elle les défonce.
Bulldozer qui tape à la porte. Et après,
qui ferme sur la petite poignée puis qui tourne en même temps.
C'est un bulldozer malin quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est pas, c'est un bulldozer.
J'adore. C'est un bulldozer avec 8 ans d'études. Voilà.
Voilà, c'est un bulldozer. qui a fait une thèse en fait, tu vois, donc elle est experte en la matière.
Et pourquoi tu dis bulldozer ?
Parce que elle m'inspire en impro, donc là on parle d'impro en l'occurrence,
oui,
mais
même de la personnalité en général, hein,
c'est ça.
Ouvrir le champ.
Il y a des gens inspirants et un peu des rôles modèles entre guillemets. Donc Sophie, moi je l'ai eu en prof d'impro au départ et ouais, je me suis identifiée dans un sens en me disant c'est cool quoi, c'est quelqu'un qui sait où elle va, en tout cas qui a l'air déterminée, qui monte des projets, qui rassemble des gens et qui a pas peur d'y aller. Et qui attend pas, surtout, j'ai l'impression, après les autres, pour s'autoriser à faire les choses. Et donc ça m'a inspirée. Voilà. On est en train de se lancer des fleurs. Mais
ok, voilà. Donc s'il y avait un petit défaut quand même, un petit pas défaut, mais un petit truc, genre là, ouais, là, t'abuses, ou là, tu pourrais mieux faire, ça serait quoi ? Ou quelque chose où tu voudrais l'apporter, à améliorer telle ou telle piste ?
Ah, voilà. Attends, mais il faut que je prenne quelques petites secondes.
T'as une idée sur Valentine, toi, Sophie ? Un truc où tu pourrais la pousser à aller plus loin ? Parce qu'on peut voir les choses comme ça, en fait.
Pas comparer
forcément...
à un bulldozer, déjà, c'est difficile. Trouver un défaut à un bulldozer, déjà.
Améliorer sa poésie.
Mais c'est dur à dire, parce que le seul truc que je pourrais dire, en fait, c'est pas vrai, j'aurais pas forcément envie que tu le changes. C'est que, justement, cette énergie, ça fait que parfois, c'est... T'es pas forcément contrôlable, mais en même temps, moi, j'ai pas envie non plus de te contrôler.
Ouais.
Ça te donne un caractère bien trempé.
Mais ça peut avoir ses défauts.
Ça peut avoir
ses
défauts, mais c'est pas...
De social, quoi.
C'est pas forcément quelque chose que moi, j'aurais... En tout cas... j'ai pas forcément le mot, mais dans le cadre de notre relation, j'aurais jamais envie de le contrôler. Mais voilà.
C'est très joliment dit, en tout cas. Bravo, Sophie. T'as trouvé ou t'as pas trouvé ? Si t'as pas trouvé, t'as pas trouvé, Val. Hein.
Bah écoute, moi je crois que j'ai pas trouvé.
Tu sais, ça arrive. Hein.
Peut-être que je vais le trouver.
Pendant en plein milieu d'émission.
En plein podcast, je vais faire.
C'est une connasse. Voilà, ça y est. Ça m'est revenu d'un coup là.
Mais c'est ça,
j'avais pas compris la question.
J'ai rassemblé les morceaux et là, voilà.
On m'a découvert.
Oh mon Dieu, tout fait sens maintenant.
Merci de vous être prêté à ce petit jeu. On trouvera donc pas de défaut à Sophie pendant tout ce catering. Voilà, je nous interdis de trouver un défaut à Sophie.
Alors que de manière détournée, c'est principe agressif.
Alors que de manière métaphorique, comme le bulldozer.
Comme le bulldozer. Voilà,
et que dans des trucs de chantier. Hein. Ouais. La deuxième question qui vient dans ce
j'ai envie de dire que t'es une grue.
Ça va commencer. C'est un peu comme du ciment, tu vois. Ouais. Tu colles.
Tout le temps sur un pied.
On peut mourir étouffé dans du ciment. Quand même.
Ouais. C'est horrible.
Il faut regarder Jeux d'enfants, ils finissent comme ça. J'ai donné la fin.
Oh merde,
beau.
Sorry.
En même temps, t'as pas vu Jeux d'enfants en 2021, j'ai envie de te dire.
C'est trop tard.
Voilà.
Les filles, la deuxième chose qui nous intéresse, évidemment, c'est d'avoir votre point de vue sur cette notion qu'est l'improvisation. Si je vous donne le mot juste comme ça, dans sa notion la plus large, ça vous évoque quoi ?
Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la liberté. Et qui peut être aussi à la fois... salvatrice et en même temps vertigineuse, quoi. Pourquoi tu rigoles ?
Parce que dans ma tête...
Il y a des jeux de mots, ça
non,
y est.
Ouais, voilà.
Il est parti sur le chantier.
Non, dans ma tête... Non, pas sur le chantier, mais c'est liberté, mais qui peut être aussi... Et dans ma tête, j'ai envie de dire tentatrice, et t'as dit salvatrice, et ça m'a fait rire.
Merde.
L'improvisation, elle peut être tentatrice.
Elle est tentatrice. Elle peut être tentatrice, l'improvisation. Donc ouais, il y a ce truc-là, c'est qu'à la fois, c'est tellement vaste, quoi. Enfin, moi, il y a un côté où ça me fait flipper, parce que je me dis, on peut tout faire dedans. Et en même temps, pourquoi j'ai dit salvatrice, du coup
Parce que ça sauve,
enfin, dans le sens où ça, moi, ça m'a appris à comment dire, intégrer des règles aussi, pour pouvoir jouer dans ce jeu, dans cet espace de liberté. Donc,
qui pourrait faire peur d'emblée,
ouais.
Mais qui en fait rappelle que la liberté, ça peut être très bien vécu. En fait.
Carrément, ça. Carrément.
Mmh. Ok, super, merci. Et toi, Sophie ?
Je vais reprendre ce mot-là de liberté. Mais même moi, enfin, en tout cas, c'est la partie qui m'intéresse de plus en plus dans l'impro, c'est ce côté liberté pas forcément en mode on peut faire absolument tout sur scène, mais en mode essayer, par exemple, si tu fais des spectacles d'impro qu'on a tous fait assez genrés ou assez cadrés, s'obliger à essayer de trouver de la créativité, même à des toutes petites échelles, et essayer de trouver tous les différents niveaux de créativité qu'on peut avoir sur scène. Tu pourrais avoir presque un spectacle écrit, mais essayer d'improviser comment tu le joues chaque soir.
Est-ce que ça, c'est pas un peu ton esprit de chercheuse, ingénieure? Alors j'ai dit chercheuse, hein. Voilà, si, moi si, j'ai décidé de dire chercheuse.
J'ai prévu des formes de présenter ma nouvelle formulation, pas matricielle.
Non, mais je veux dire, dans ta logique d'appréhender une matière. Donc en général, est-ce que du coup là, ça t'amène pas à apprivoiser l'improvisation sous forme de recherche organisée? En tout cas, quand je t'écoute parler comme ça de cette liberté et de la recherche qu'on peut faire au travers, à l'intérieur de cette liberté, j'ai l'impression de te voir regarder dans un microscope.
Ah, mais tout à fait, tu verrais, quand je crée un spectacle d'impro, j'ai un fichier Excel avec des macros, des cases à remplir, des tas de choses.
Partage-les.
Ah, mais oui.
Partage ton savoir.
Je fais des templates.
Des cités d'or.
Des formules. Non, mais c'est ma manière de réfléchir. Mais effectivement, le côté on peut tout faire, moi je vais voir plus, ok, à quel niveau on pourrait tout faire.
Et où est-ce que ça s'arrête? Tu cherches les limites.
Voilà, où est-ce que ça s'arrête? Ou alors, qu'est-ce que ça va nous apporter aussi? Tu vois, parce que finalement, tu pourrais dire, si je fais un truc complètement différent, en quoi est-ce que ça a de la valeur? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, ce qui est intéressant, c'est ok, dans ce que je vais présenter au public, cette liberté et ce je ne sais pas ce qui va se passer, à quel niveau je peux le mettre pour que ça l'intéresse, pour que ça lui apprenne quelque chose de... Enfin, pour que ça lui montre quelque chose qu'il n'a pas forcément vu avant. Nous, ça nous a interrogé aussi sur le process de jeu ou ce qu'on va jouer.
Il y a dans ton discours, là, une recherche de nouveauté parce que vous avez la sensation, l'une comme l'autre, je ne sais pas, hein, j'intègre Valentine pour avoir son point de vue aussi, que refaire des choses déjà faites, c'est moins intéressant en impro?
Non.
C'est pas antinomique, hein, je pense qu'on... Enfin, dans sûr. Ma question, est-ce qu'on peut faire les deux? Est-ce que ça vous intéresse de faire les deux? C'est surtout votre regard qui m'intéresse plus qu'une idée générale.
Pour moi, il n'y a pas de problème à refaire des choses déjà faites à partir du moment où on y met un peu de son identité... où on l'aborde peut-être sous un autre angle. Après, il y a la question de refaire des choses déjà faites. Si c'est du plagiat pur, moi, clairement, je trouve pas ça très intéressant. Après, tu vois, revisiter un Molière, revisiter un format d'impro, le Gorilla, et ajouter autre chose. Et puis, en plus, dans l'improvisation, j'ai l'impression que, vu que c'est de l'improvisation, que c'est spontané, en fait, il n'y a jamais rien qui est déjà
qui
fait,
refait, oui.
Ou qui est refait, ouais. À refaire. Enfin, ouais. Tu vois, je veux dire, moi, je trouve ça chouette de récupérer des formats et puis de les explorer à sa manière, parce que de toute façon, le contexte, l'environnement est différent, les gens sont différents, les histoires vont être différentes, parce que tout est improvisé. Donc, dans tous les cas, ce sera foncièrement différent. Et puis, du coup, on peut aussi se poser la question pour une pièce de théâtre écrite. En réalité, là aussi, ça peut être c'est différent, parce que, comme le disait Sophie tout à l'heure, elle disait... C'est intéressant aussi de voir où est la part d'improvisation et dans une pièce écrite qui se joue plusieurs soirs. En réalité, c'est jamais vraiment la même pièce. Bon,
oui.
Après, ça lance un débat un peu philosophique.
Oui, c'est ça.
Le plagiat pur, je trouve pas ça intéressant. Mais en impro, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, mon avis, c'est que le plagiat n'existe pas forcément. Que c'est plus peut-être des égos qui existent, je sais pas. De voir ça comme du plagiat,
okay, on ramène
ça
la
commence.
Notion d'ego.
Ça commence.
Les problèmes. J'adore. Du coup, on a eu ton point de vue, mais... Val.
Je suis assez d'accord. Je trouve que c'est, par exemple, super intéressant de reprendre des formats qui existent déjà et de s'y approprier et de voir qu'est-ce que ça nous fait chez nous et qu'est-ce que ça nous fait travailler.
Oui, c'est ça. Parce qu'une compagnie pourrait faire le même spectacle et ressortir quelque chose de complètement différent, justement parce que les personnalités et la façon de l'aborder est différente.
J'avais eu l'expérience, aux États-Unis, quand je suis partie aux États-Unis, puis après quand je suis revenue, de prendre des formats que j'avais joués en France et d'essayer de les adapter là-bas, et de prendre des formats que j'avais joués aux États-Unis et de les adapter ici, et avec la culture de l'impro complètement différente, ça a fait des spectacles qui n'avaient rien à voir. Mais c'était super intéressant parce que tu arrives en mode je vais mettre en scène ce spectacle, je vais vous dire quoi faire, et en fait les gens font complètement autre chose de ce que t'attendais, et c'est ça aussi que je kiffe dans l'impro, c'est venir avec mon idée et les gens qui prennent mon idée et en font complètement autre chose.
Est-ce que je peux te demander un exemple plus précis de ce que tu viens de nous raconter?
Alors un bon exemple, le plus ou moins. Donc avec eux, on avait joué le plus ou moins en France.
Donc on rappelle vaguement rapidement le
plus ou moins. Donc c'est quelqu'un est le directeur d'une scène, donc va proposer une scène et régulièrement au public va demander vouloir avoir plus ou moins et le public dit plus ou moins et la scène s'arrête quand c'est moins. Et le but c'est de faire la scène la plus longue possible.
Super.
Et quand on l'avait fait en France avec les E, on faisait quand même souvent des scènes assez longues. Il y avait des scènes qui gagnaient, elles pouvaient faire 25 minutes avec des trucs qui étaient quand même assez narratifs, avec un peu le cheminement du héros et ce genre de choses. Et quand j'ai voulu l'adapter aux États-Unis avec des gens qui viennent le long forme américain, mais qui sont en fait des scènes très rapides, qui sont éditées très rapidement et qui sont très très sur le jeu de la scène. Ils ont le jeu de la scène vraiment intégré. Enfin, c'est ça qui travaille beaucoup. C'est devenu, je pense que les scènes, elles gagnaient quand elles arrivaient avec 8 minutes. C'était super long. Et en fait, le plus ou moins était devenu aussi le jeu, un espèce de méta-jeu dans le spectacle où les gens s'amusaient à essayer de faire foirer leur scène exprès, d'utiliser le fait qu'ils dirigent pour mettre vraiment dans la merde leur partenaire.
On est toujours aux États-Unis là.
Toujours aux États-Unis. Ouais. Et du coup, ça, c'était génial parce que ça a vraiment donné, ça m'a donné en tout cas une autre vision du format.
Tu m'étonnes.
Ou du coup
un peu moins narcissique peut-être. J'ose ce terme, pardon, je mets les pieds dans le plat. Je vise pas particulièrement la compagnie DE, mais dans le format que là tu nous racontes en tout cas sur l'expérience française, il se tire de cette expérience sans y mettre les gens qui l'ont joué pointé du doigt, mais voilà, une forme de narcissisme de la scène où on a vraiment plus envie que la scène dure, alors qu'aux États-Unis c'est plus le jeu qui prend
J'ai le souvenir d'un soir où ça arrive souvent quand tu fais le plus ou moins que tu vas avoir un membre du public qui va s'amuser à dire moins beaucoup parce que ça le fait marrer.
Classique.
Et je me souviens d'un soir où un peu sans se le dire, tout le monde s'est mis à juste prendre l'avis de cette personne-là en leader. Non, toutes les scènes duraient 30 secondes et c'était devenu le jeu comment est-ce que je peux intéresser cette personne pour l'obliger à faire plus.
Et ça a marché ou pas?
En fait, tout le monde en a eu marre de lui et il a fini par avoir honte de dire moins tout le temps.
C'est expériences sociales.
Mais du coup, c'est marrant parce que ça se joue, t'improvises à plein de niveaux. T'as pas juste l'histoire, t'improvises sur la relation avec le public, sur la relation entre nous, sur plein de choses. Et ça devenait autre chose, juste parce que tu peux te dire, ah bah tiens, je fais un plagiat, et en fait, c'est
deux cultures différentes font déjà deux spectacles différents. Merci pour ce partage d'expérience.
C'est hyper drôle de faire des scènes que de 30 secondes.
Oui, moi j'aimerais. On n'a jamais travaillé ça, même en cours, j'ai pas l'impression de faire bosser ça, moi.
C'est quoi? C'est les fusillades? C'est les.
Ouais, mais même une fusillade.
Les toasters?
Les toasters.
Moi, c'est que j'ai fait ça en match.
Vrai. Mais il y a un contexte français dans la manière dont amène ces 30 secondes qui leur laisse pas la part belle, en fait.
Ouais, puis c'est de la vanne. Non, mais c'est beaucoup de blagues. Tu te lèves, on est quatre. Qu'est-ce qu'on fait à quatre? On sait qu'on en a pour. En fait, c'est ça. C'est faire une impro de 30 secondes en sachant que t'en as pour 30 secondes.
Pas pareil.
Faire des impros et puis être coupé toutes les 30 secondes. C'est deux rythmes différents.
Et puis c'est vraiment une mécanique différente dans le sens où en France, quand tu donnes des cours d'impro, tu fais beaucoup de scènes à deux.
Oui.
Tu fais monter les gens, tu leur fais prendre leur temps pour qu'ils aient un peu confiance aussi de ne pas aller super rapidement. Et tu travailles beaucoup les scènes à deux alors que le long form américain, en fait, t'es 11 et de toute façon, ton set, c'est 25 minutes, tu vas être 11 et tout le monde édite les scènes de tout le monde et rentre et coupe les scènes de tout le monde. Et il y a vraiment une espèce de co-création qui se fait à 10 ou 11.
Ouais.
Et c'est un.
C'est une autre énergie, quoi.
C'est vraiment une autre énergie.
C'est marrant, ces scènes à deux, parce que vraiment, j'ai l'impression, quand je donne un cours, là, dans les impros de fin de cours, je passe une impro sur deux à dire, vous avez le droit de rentrer.
Les gens sont polis. Très polis.
Mais je sais
Que les Américains, pas du tout, quoi. C'est ça que tu es en train de nous
en
dire.
En fait, mais je sais pas d'où ça vient, parce que à l'époque où, quand je faisais de l'impro et que j'étais ado et que je faisais beaucoup de matchs, mais les cours, pas seulement un truc, mais on se bondissait sur scène. Alors je sais pas si c'est un truc d'énergie, quelque chose de format, puisque c'est rare que en fait là récemment c'est rare, j'enseigne plus trop le match en fait.
Mais
j'enseigne l'impro de manière assez générale, mais
t'as un public adulte, parce qu'un public ado, un public adulte, c'est deux publics différents, tu vois, les ados, enfin je sais pas,
mais même adulte, il y a une, en fait la compagnie dans laquelle j'ai commencé l'impro, qui s'appelle l'Improtéo, qui est une ligue en Picardie, eux ils ne font elle existe depuis quasiment 25 ans cette ligue là et ils ne font que du match. Et je suis arrivé plein de fois avec des formats dans les pattes en disant venez juste on en fait, on voit et peut-être pas vous le jouez. Non, on veut faire du match. Et
un amour du match en France.
Mais, et eux, ils ont cette dynamique. Ils rentrent, ils font des trucs et plein de choses et ils voient ce qui se passe. J'ai envie d'amener. Et ils ont une dynamique qui est totalement différente que je retrouve pas ailleurs que là, dans cette. dans cette petite structure dans laquelle j'ai fait de l'impro étant jeune.
Toi, Valentine, tu as fait un petit passage au Québec, il me semble.
Oui.
Donc, par rapport à ce que nous raconte Sophie, tu as vécu toi aussi différemment. Tu as eu l'occasion de faire de l'impro là-bas. Tu as intégré une compagnie. Comment ça s'est organisé de ton côté? Est-ce que tu as pu vivre un peu ce genre d'expérience que Sophie nous partage?
Complètement. Moi, ça m'a beaucoup parlé ce qu'a dit Sophie sur le jeu culturel aussi, le jeu théâtral culturel. Enfin...
Parce que là-bas, sans vouloir te couper, juste pour remettre un peu le cadre, ils font de l'impro à partir du collège ou même avant, en primaire?
Même avant, en fait, ils commencent en primaire. Là-bas, c'est vraiment installé.
C'est comme le dessin chez nous, quoi, cours de dessin. Art plastique.
Ouais, EPS. Carrément. Ouais, c'est EPS. Intégré, c'est intégré.
Je cherche l'équivalent, il n'y en a pas.
La techno.
Dégueule, Jeanne, fais
La techno.
SVT.
Le ciment, le BTP. Le BTP, c'est pour Sophie.
Un tractopelle.
Les cours de la techno, grue. C'était pour Sophie, hein, franchement.
Un porte-clés lumineux, c'est ça l'objectif?
Oui. Alors, j'avais fait une petite mallette.
Ils ont tous des porte-clés lumineux et c'est incroyable parce que la nuit, ils l'allument tous. Et voilà, c'est vraiment une culture.
Comme ça, quoi. Temps,
à la petite lumière.
Il fait nuit à 16h, quoi.
La bougie. Je me recentre sur ma question. Donc, nouvelle.
Ta question hyper intéressante. Oui, en fait, moi je suis partie à Montréal parce que j'ai écrit un mémoire sur l'impro.
Tu peux nous rappeler le titre de ton mémoire qui est intéressant?
Alors, bonne chance. Enfin, quoi que non, ça va en fait. C'est.
Tu t'es dit bonne chance à toi-même?
Oui, je me suis dit bonne chance
pas
à moi-même.
Du tout, je sais pas pourquoi tu dis ça.
Bonne chance pour s'en souvenir. Hein,
moi, oui, en fait, je pense que je me disais bonne chance à moi-même pour mémoriser le.
Il est long, mais il n'est pas compliqué.
Non, il n'est pas compliqué. En gros, c'est les enjeux de l'enseignement de l'improvisation théâtrale dans le milieu scolaire.
Voilà.
Oh, ça va, en fait.
Mais oui, tu vois, je comprends
mais
pas
oui,
pourquoi
mais
tout
parce
d'un coup, tu t'es mis
la
pression.
On fait des titres à rallonge de
parce que
dingue.
T'as mis une police 54 et que ça te paraissait très gros, quoi.
Et je crois qu'il y avait un sous-titre en dessous où il y avait des termes...
Oui, c'est vrai, t'as mis un sous-titre.
Mais en gros, l'idée, c'est ça. Et du coup, quand je suis partie à Montréal en 2015... j'ai écrit du coup ce mémoire et bah, avant de l'écrire du coup faut être sur le terrain et en fait bah, vous le savez j'imagine que bah, le Québec c'est la terre mère de l'improvisation théâtrale, enfin en tout cas pas de l'improvisation théâtrale pardon, du match d'improvisation théâtrale qui est un des nombreux formats existants et un des plus connus parce que
ici en France en tout cas
après
je m'en rends pas compte aux États-Unis comment c'est mais voilà moins hein.
Après ce qui est intéressant carrément c'est qu'il y a des formats d'impro qui ont émergé un peu partout dans le monde très différents donc bah, vous connaissez très bien j'imagine le Theatre Sport de Keith Johnston donc lui il est anglais après il est parti au Canada à Calgary et c'est marrant parce qu'apparemment, le match d'impro et le theater sport ont émergé la même année, en 77. Alors, il y en a qui disent « Oui, mais ils l'ont copié, on ne sait pas qui a copié qui. Enfin, »
Calmez-vous, calmez-vous, ce n'est pas le propos.
C'est pas très intéressant.
Personne ne s'énerve là.
Ce qui est intéressant, c'est de se dire
Elle fait tous les persos de son histoire, Valentine. Donc,
C'est
pour ça qu'elle s'est dit bonne chance, elle savait, c'était un tunnel, tu l'as lancé dans un tunnel. Là.
Quand elle a commencé à se dissocier en disant « Bon courage » et qu'elle a donné son titre, elle
m'a dit
« J'ai su qu'on allait avoir une belle petite histoire. »
Il y a Sherifan au galop qui est derrière, qui attend de relâcher une vibe.
Je crois que je suis schizophrène, en fait. Il y a moyen, je fais trop de choses. Non, mais du coup...
Tu as aimé cette expérience au, enfin, au Québec,
oui,
à Montréal.
C'est ça qui est intéressant, c'est que culturellement, en fait, il y a des pratiques de jeu qui sont différentes. Et donc, je rejoins Sophie pour dire que je les ai trouvées, mais tellement détendues. En tout cas, les Québécois, quand j'ai joué à Montréal, il y avait une espèce de détente dans le jeu, de se faire plaisir, de trouver le game...
Nous, on n'est pas détendu en France.
Je pense qu'on est détendu, mais différemment. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être des héritages aussi un peu artistiques, où j'ai l'impression qu'on est plus dans écrire des histoires, la narration, l'héritage théâtral lourd des grands auteurs français. Au Québec, il y a des auteurs aussi, mais qui en fait sont très récents, puisque, enfin. Je veux dire, la culture théâtrale québécoise est très très récente. Hein. C'est lié alors à l'immigration en fait, et lié au fait que initialement les Québécois calquaient des auteurs français. Enfin, c'était très descendant quoi. C'est-à-dire des Français venaient enseigner aux Québécois comment faire du théâtre. Donc il y avait une espèce de
c'est bizarre
de condescendance culturelle.
Puis je pense qu'en France on a un petit peu l'idée de colonialisme.
Être un vrai artiste, il faut souffrir.
Ah, oui. Ouais, enfin ah oui carrément
enfin, moi j'ai toujours la
oui,
pression
tu veux
non
dire,
mais tu vois
c'est
faut travailler dur c'est, ouais. c'est il faut passer 48 heures par ouais. jour dans une salle de répétition
faut répéter faut avoir
faut
mal.
S'engueuler faut être
oui je pense qu'effectivement il y a un historique en tout cas de ça
ouais.
que vous n'avez pas retrouvé ni aux États-Unis ni ouais. À Montréal quand tu y étais.
J'ai l'impression que c'est plus léger en fait et moi je me suis vraiment éclatée et ça m'a détendue avec ma pratique de l'impro c'est-à-dire que j'ai découvert le théâtre Sainte-Catherine donc vraiment petite dédicace à eux si jamais ils écoutent ou ils réécouteront plus tard qui est un espèce de labo théâtral un théâtre à Montréal où en fait les gens se prennent pas la tête c'est un espèce de café-théâtre avec une mezzanine où on peut écrire des textes rester dormir une espèce de
ah
maison
oui,
artistique
un petit squat en fait t'étais dans un petit squat
un squat légal
t'avais pas d'endroit où dormir et oui, t'as rencontré des gens sympas
je me casse de ce
non ça a l'air génial ce qui a l'air génial dans ce que tu racontes c'est que il y a une vraie organisation autour même de l'impro. Ce qui, il me semble, chez nous, n'existe pas encore. Est en train, j'ai l'impression, d'émerger, dans le sens où il y a plein de projets possibles autour de cette notion d'impro, alors que là, nous, on est encore sur quelque chose de très scolaire. Il y a le spectacle, on vient jouer. À la rigueur, à l'époque, je me souviens même, enfin, j'ai l'impression d'être vieille, moi aussi, hein, Sophie, hein, je le dis souvent, mais il y avait un temps où les compagnies, on ne se mélangeait pas.
Mais c'est triste.
On ne s'invitait pas. Mais ben oui, mais tu te rends compte. Et on a connu ça, nous. Si tu fais partie d'une compagnie, tu ne peux pas être dans une autre.
Ah,
donc,
ouais.
Il y avait vraiment un truc où il fallait que tu choisisses, que tu investisses dans un lieu.
Sauf
ou un
peu le match, ou au moins le match, tu t'invitais.
C'était un endroit de rencontre.
Mais ça reste voilà. quand même une personne qui invite une autre personne. Et
Oui, et encore, il y a des compagnies, les plus vieilles compagnies, elles faisaient leur match entre elles, hein. Et d'ailleurs, quand tu étais dans une compagnie qui faisait du match, tu n'allais pas faire un match dans une autre compagnie qui faisait du match. Ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, ça se fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Mmh. Et c'est intéressant de voir, grâce à vos voyages et à votre discipline si étendue.
Notre multiculturalisme.
Voilà, exactement. De nous permettre, ici, là, de discuter, en tout cas, de choses qui peuvent encore changer. Puisque si ça bouge ici, ça peut bouger là. On ne sait pas où on sera demain.
Moi, j'ai l'impression que ça bouge aussi ici, qu'il y a de plus en plus de liens, notamment avec, tu vois, l'émergence des théâtres Improvidence à Lyon, à Bordeaux. Il y en avait eu un à Avignon, malheureusement, qui a fermé à cause de la pandémie. Et donc, ça permet ouais, des rencontres, des compagnies de Paris ou de Lyon qui, du coup, vont jouer là-bas. Je crois que dans un des théâtres, peut-être que tu sais mieux que moi, mais Fushigi, vous y avez joué à Bordeaux.
Oui.
Il y a même un appartement en haut.
C'est ça.
Donc,
c'est une autre façon d'accueillir l'improvisation et de laisser une autre place à l'improvisation. Et d'ailleurs, Thomas a fait un très très beau travail avec les théâtres, l'organisme culturel en fait de sa région, qui fait qu'aujourd'hui l'improvisation commence à entrer dans des secteurs qui lui étaient à l'époque fermés. Donc, je salue Thomas. Alors, Arash Picture, je suis toujours nulle pour dire les noms sur Instagram, mais nous dit que la vision de l'impro, pour lui, elle est complètement différente entre le Québec et l'Europe, parce que nous, d'après lui, on voit ça comme un vrai spectacle, alors qu'il dit ici, au Québec, c'est plus pour se voir entre potes. Je trouve que ça résume bien, finalement. On se prend trop la tête.
Alors, oui, mais en plus, comme t'en parlais rapidement, enfin, du coup, ça a commencé pour eux. C'est une vraie culture, c'est-à-dire que ça commence dès le primaire. Donc, ils évoluent dans cet environnement-là de rencontres, d'échanges, donc vraiment de convivialité. Nous, peut-être qu'on rencontre l'impro un peu plus tardivement.
C'est sûr.
Sûrement. Et donc, du coup, on est peut-être dans d'autres dynamiques. Moi,
je veux dire qu'on a déjà une cravate quand on se met à faire de l'impro, donc le temps de faire péter
non,
la cravate.
Ça, ouais.
J'ai pas de réponse, tu vois, mais eux, c'est une pratique qui est un peu plus généralisée, alors que nous, bon, bah, faire de l'impro, bah, peut-être que t'as fait des cours de théâtre juste avant, donc déjà, t'as fait, vu que les cours de théâtre, c'est quelque chose qui te demande. Enfin, faire des cours de théâtre, c'est pas anodin, on te les propose pas spontanément à l'école, donc du coup, c'est que t'as fait la démarche d'aller.
Ouais.
Alors que là-bas, c'est proposé, donc c'est différent. Par contre, juste pour nuancer ce que dit Arash Picture, c'est vraiment intéressant, c'est que du coup, il y a, je pense, en discutant avec des improvisateurs québécois, c'est que du coup, oui, c'est convivial, etc., mais qu'il y a un problème de se professionnaliser.
Oui, c'est ça.
Dans l'improvisation, c'est que du coup, bah, il y a le revers de...
C'est très difficile de vivre de l'improvisation là-bas. En tout cas, c'est très peu rémunérateur. Les gens ne payent pas cher pour les spectacles, voire ne payent pas, parce que c'est tellement répandu que ça a perdu de sa valeur monétaire.
Moi, je vois ça comme, en termes de contexte, un peu comme... avec les conditions entre guillemets climatiques, c'est-à-dire que avec toute cette grosse période de l'année où il fait froid et tout ça, je pense que les enfants, là où nous on irait faire un foot dehors dès le plus jeune âge, eux avec l'impro ont un autre moyen de s'amuser en dedans. Mmh. Et c'est là où, en fait, c'est ce que je pense quand je vois le, c'est plus pour se voir entre potes. Là où nous on se verrait pour faire des foot à la manière comme si on était des enfants, eux leur le reste d'enfants qui leur reste, c'est l'impro. Et là où ils se retrouvent dans des bars pour le faire, et bah, sauf que c'est comme n'importe qui voir un match de foot qui se passe là. Et en effet, t'as pas envie de payer un match d'amateur qui se fait là dans un coin de foot, alors qu'aller voir un spectacle d'impro. Ouais, je pense que c'est un peu cette dynamique-là.
Bah, ce qui est intéressant, et donc c'est une question de Sébastien Serra qui nous suit là sur le live, il nous dit, nous on se prend aussi peut-être un peu la tête par rapport au public. Et d'après vous, les spectacles que vous avez faits là-bas, est-ce que le public était différent de celui d'ici?
Moi en tout cas, les spectacles que j'ai faits dans les théâtres auxquels j'ai joué aux États-Unis, ouais. Il y avait clairement un bar dans le.
Ah oui.
Dans la salle.
C'est notre
sur scène. Tous.
Soit il y avait un bar à l'arrière, soit c'était la salle était attenante à un restaurant, bar, etc.
Un chantier aussi.
Ça y est, c'est bien.
Non, mais il y avait le fil rouge. Il y avait un bowling aussi. C'était le lieu de mes
bowling.
Rêves. Ouais. Dans le même endroit.
L'école de l'impro.
Là, tu parles. C'était à Seattle.
C'est n'importe quoi. Non, c'était à Minneapolis.
À Minneapolis. Pardon.
Mais en tout cas, il y avait un peu un côté où on y va. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où tu vas avec une bière pour passer une bonne soirée. Et tu vas pas juste payer ton ticket, voir 45 minutes et t'en aller.
Oui, t'as tout un package, quoi.
Voilà, tu peux rester souvent voir plusieurs spectacles ou ce genre de choses. Donc il y a un côté, ça fait ta soirée. Et c'est un lieu où les improvisateurs vont pour se rencontrer. Et du coup, il y a un peu un côté, finalement, ce qu'a fait Romuald avec l'improvibar, il y a ce côté-là aussi.
Oui,
c'est
Romuald,
ce côté...
on t'embrasse.
Oui, on te fait des gros câlins. mais en tout cas, voilà, il y a ce côté-là de c'est pas... Moi, j'avais souvenir du Huge Theater, par exemple, où j'ai rien à faire samedi soir.
Je vais aller
pas
boire un verre là-bas.
Potes, je vais aller je vais aller là-bas passer la soirée et je vais retrouver des potes improvisateurs.
Et oui, bien sûr, ça change tout.
Et prendre un verre avec eux, regarder des spectacles. Et ça fait ma soirée. Je sais que là-bas, je vais y aller, je vais croiser des gens que je connais ou des gens que je peux rencontrer.
Donc ça change tout dans l'état d'esprit déjà de la démarche du spectateur. Mais la seconde question qui était attenante à celle de Sébastien, c'était est-ce qu'ils sont plus compréhensifs dans le public américain ou québécois?
Plus compréhensifs, c'est-à-dire empathiques?
Peut-être moins en demande d'une certaine forme de...
Je pense qu'ils sont plus... C'est pas qu'ils sont compréhensifs, mais c'est que si l'impro est plus répandu, t'as plus l'habitude d'en voir et tu sais plus quoi attendre.
Okay,
ça fait que c'est compréhensif sans être compréhensif, parce que d'un autre côté, la plupart des gens qui quand t'as surtout des improvisateurs qui viennent voir un spectacle, ils vont pas être là oh, elle a tout inventé, c'est incroyable. Il y a un certain niveau.
Ils ont déjà une connaissance.
Et pour moi, il y avait quand même un très très bon niveau des spectacles. Donc, c'est un peu plus. Il y a un peu un côté, peut-être un meilleur respect du processus créatif et en parallèle. Une plus grande connaissance, on est moins obligé d'expliquer. Alors là, c'est improvisé. Non, on n'a pas écrit les répliques. Non, on n'écrit pas des répliques différentes chaque soir parce que ce serait un peu long. Là, c'est juste c'est connu, quoi.
Et du coup, c'est vrai que aux États-Unis, il me semble, mais tu me diras si je me trompe. J'ai vu moi des comédiens improvisateurs et comédiennes improvisatrices monter sur scène, dire bonsoir, on s'appelle un tel et un tel, bon spectacle et nada, quoi. Et ils jouent, et tout le public à la fin est debout, bravo, c'était formidable. Oui. Tu fais ça en France, mais on te jette des pommes de terre. Ou du gravier, pour rester dans la métaphore.
Moi, je veux bien faire.
Un peu de sable, un peu de ciment.
Et c'est dommage.
Ce fil rouge chantier, pardon.
c'est vraiment dommage, en fait. Je regrette que nous n'avons pas encore atteint ce stade-là en France.
Après, il y a un côté aussi où, ce côté-là aux États-Unis, il y avait un peu un débat et des discussions sur le fait qu'il y avait les gens qui connaissent l'impro, mais il y a quand même des gens qui ne connaissaient pas l'impro, et que du coup, si tu n'expliques pas ce que tu fais... tu n'inclus pas les gens qui connaissent l'impro.
Oui.
Et on avait régulièrement, je me souviens au Huge, des gens qui laissaient des critiques sur Yelp
pour dire quoi?
Pour dire qu'ils comprenaient pas, ils avaient pas compris, c'était chelou, les gens avaient l'air bourrés, c'est quoi ce bordel?
Ah oui, carrément.
Non, mais t'as toujours des
peut-être
gens
peut-être qu'ils l'étaient un peu. Non, le bar est ouvert à tout le monde.
Tu peux absolument pas boire si tu montes sur scène. Enfin, tu peux pas monter sur scène si t'as bu.
Le mec du bar te dit non.
Non, mais c'est dans les, enfin, c'était dans l'écrit, dans les règles de pour jouer sur le théâtre. Tu peux pas, tu peux
ah
pas
ouais,
monter sur scène.
Parce que nous, on
n'a
pas de règles dans un théâtre.
Ah non, mais
voilà. À Montréal, c'était fallait boire pour monter.
Ah voilà. Différentes cultures de chaque côté de la frontière. Non, mais du coup, il y a un peu un côté où je pense que c'est pas un défaut d'expliquer ce qu'on va faire pour faire venir les gens et être sûr que t'inclus tout le monde et
bien
pas
sûr.
Juste les gens qui connaissent l'impro.
C'est vrai que là, du coup, c'est très complexe. On a abordé des choses très complexes d'emblée.
Ouais. Oui,
on n'a pas vu le temps
boire,
passer.
Hein.
Et c'est déjà le temps
de se faire un petit jeu, j'ai l'impression.
Voilà. Ah, oui. Là, tu pourrais refaire des petites vibes, hein, Val.
C'est le moment, ouais.
Sur une musique de Nicolas Beignet. Franchement, tu devrais embaucher, hein.
Ouais.
Choriste.
Pour ce petit jeu, on a l'habitude de faire des quiz, mais là, on va se faire un petit tu préfères version sel poivre. Donc, le but, ça va être de vous donner le choix entre deux situations et vous me dites ce que vous préférez. Donc, évidemment, en rapport avec l'impro.
Et moi, j'ai le droit de jouer.
On n'est pas là pour faire des. Est-ce que tu préfères avoir des bras en mousse ou les bras de mousse
ah,
diouf?
Ah ouais, s'il te plaît, ouais.
Voilà, c'est oh, pas
mousse.
Cela.
Parce qu'il faut arrêter avec mousse diouf, faut le laisser tranquille. Il n'y a rien demandé, quoi.
C'est un mais tu préfères préférer. voilà, j'ai plein de petites. Voilà, je vous propose deux choix, puis vous me dites ce que vous préférez. Donc, on va commencer doucement, et après, ça va être des choix un petit peu plus techniques.
Tout doucement.
On chante pas tous aussi bien que Valentine, je crois.
On n'a pas la vibe. Et donc, évidemment, j'ai une petite liste à faire, mais si vous en avez d'autres, vous pouvez.
On peut en inventer,
préférer.
Tu veux dire ?
Évidemment,
ah, et sur le chat aussi.
Sur le chat, ils peuvent nous en proposer aussi. Vous pouvez jouer
trop
chez
bien.
Vous.
Je vois
tout
qu'il y a
seul.
Yann Parizo qui nous suit. Allez, Yann, balance-nous, tu préfères.
Sachant qu'Yann a fait une super analyse qui disait que l'improvisation servait à vendre de l'alcool, c'est un business model, et il a raison.
Raison.
En tout cas,
il n'a pas tort. En tout cas, ça marche. Hein.
Ouais. Pour ce premier tu préfères, est-ce que vous préférez avec ou sans thème ?
Ah, bah moi, sans.
Franchement, ah, Sophie.
Sans. Vas-y, Val, on ne veut pas t'influencer.
Non mais trop tard, merde, je suis influencée, je vais me sentir exclue si je...
Mais non, c'est
franchement,
un choix de vie,
ton mentor
est-ce que tu choisis d'être d'accord avec nous ou contre
voilà.
nous C'est juste un choix de vie, là, vas-y.
La sororité.
Je suis emprisonnée dans une cave, les gars, aidez-moi. Franchement, j'allais répondre sans.
Voilà.
Vous êtes plus rapide, voilà, vous êtes plus
c'est
spontané.
C'est ça, ils disent tout ça.
Quel bonheur, ce
mais
sans
ouais,
thème.
J'ai dit que thème... En termes de trucs, mais avec ou sans suggestion, en fait, de manière plus générale.
J'en parlais juste avant. Je pense que ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit. Je regrette qu'en France, mais je ne juge pas. Enfin voilà, je fais une globalité évidemment, mais je ne crois pas que le public soit prêt à vivre un moment comme ça.
Le public a souvent besoin, ou en tout cas les gens. Les retours que j'ai, c'est que les gens aiment bien avoir la suggestion parce que ça leur montre que c'est
voilà,
improvisé.
C'est ça. Ouais. Et c'est dommage que cette chose-là soit.
Pour la prochaine, est-ce que vous préférez
la
prochaine?
La prochaine,
ouais.
Le prochain, mais
le prochain. Voilà. C'est un petit nain qui te demande c'est quoi que tu préfères.
On dit pas nain, on dit personne de petite taille.
Merci.
Les prochaines, clairement, c'est un nain. On n'est pas, c'est pas sur une personne. Hein. C'est un petit bonhomme tout vert avec un chaudron dehors. C'est pas le.
Ils sont verts les lépreux. J'ai aucune pensée.
Les prochaines, parce que si
ils
tu dis juste lépreux.
Les prochaines.
Sont verts les lépreux.
C'est quoi les prochaines?
Les prochaines, c'est les petits pas les gobelins, c'est les petits farfadets verts.
On a dit beaucoup trop de mots que je connaissais pas en moins de 5 minutes.
Pour moi, les prochaines, c'est ça, c'est la Saint-Patrick, oui, tu sais, le mec tout vert là.
Ah, ouais. Donc le lépreux, il est vert.
Pour moi, il était juste habillé en vert, mais.
Attends, je vais rentrer voir mes collègues.
Trop bu à la Saint-Patrick.
J'ai rentré mes collègues, je me suis dit, putain, tu savais ce que c'était un prochain toi?
Voilà, un prochain.
Les prochains.
Le prochain. Les prochains.
Le prochain. Le prochain question. Si quelqu'un a la prononciation de les prochains dans le chat,
oui,
il peut nous le donner.
On est preneurs.
Est-ce que tu préfères match ou longue forme?
Longue forme.
Longue forme. Alors, moi, je vais quand même dire longue forme, mais je suis en train de porter un nouveau regard sur le match. En me disant que ça y est, peut-être on est suffisamment nombreux à avoir fait autre chose pour ramener des choses qualitatives dans le match et que donc le format en lui-même, quand tu ne joues pas la vraie compétition, il est super,
mais
il est riche, il est
moi,
coloré.
Moi je dis longue forme parce que j'aime pas perdre.
Ah et ça c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai qu'elle n'aime pas perdre.
Voilà. Moi tu sais que ma théorie c'est que dans le match quand tu perds tu gagnes.
C'est beau.
Oh là là,
voilà. Allez, j'ai envie de faire du match avec toi.
J'ai envie de faire
non,
du crépi.
Souvent, quand j'arrive dans
quand
une équipe
une étoile,
qui fait du.
En fait, t'as une étoile
dans ton cœur.
Quand j'arrive dans une équipe et que je dis, ah, vous avez fait ce match, ouais, on a joué dimanche et tout, je fais, ah, et vous avez gagné. Ouais, on a gagné 18. Ah non, vous avez perdu. Bah, si c'est vous qui avez eu tous les points, c'est que c'est l'autre équipe qui a été meilleure à vous faire gagner, donc vous avez perdu.
Oh, mais quelle générosité. J'adore. Mais je suis d'accord avec Jeanne, clairement, dès lors qu'on vide un peu la compétition de ce format-là. que les équipes se parlent avant le match. Merci, quoi. Enfin, oui. Parce que bon, il y a cette espèce de truc de concurrence qui en fait est contre-productive. On n'arrive même pas à écrire des histoires ensemble parce qu'il y en a un ou une qui va puncher au détriment de toute la narration.
Est-ce qu'on retrouverait pas ta chouette, petite problématique en fait. D'ego énoncée tout à l'heure?
Mais oui,
je me permets. Je fais un lien.
Vous avez l'œil. Moi,
je réutilise une métaphore qu'utilise Nabla dans son livre. Il parle des masques, des différentes couches de masques qu'on a. Où y a
les gens ne te voient pas, tu fais plein de mouvements.
Mais
avec
c'est
tes
pour
bras,
vous expliquer, vous, mais les gens non.
Mais elles ne sont pas débiles.
On a le personnage, l'acteur et nous-mêmes.
C'est parce que c'est qu'un masque.
C'est un masque. Mais parce qu'on voit trop de masques qui nous couvrent. Pas les bons, les vrais, les masques qu'on aime.
Mais maintenant, il faut qu'ils aient plusieurs couches.
Il y a Arash Picture qui a écrit « Dans le match, le seul gagnant, c'est l'impro. »
Et ça, c'est beau. Et voilà,
je
fin
fais un cœur avec mes mains.
Merci, Najim.
Allez, sujet suivant.
Mais voilà, disons qu'il y a ces plusieurs masques-là et qu'en fait, il y a le masque du perso qu'on joue dans l'impro, le masque du jouteur qui est celui qui est sur le banc, le masque de l'improvisateur qui est toi quand tu joues et toi-même. Et en fait, ton personnage, il fait l'impro. Ton jouteur, il veut gagner le match parce qu'il joue le format de la compétition, mais ton improvisateur, il est là pour faire un beau spectacle et pour que l'autre équipe s'amuse et tout ça.
Et après, il y a le masque du je danse sur le bord, tu sais, quand
ils
mettent la musique.
C'est le jouteur.
C'est mon moment préféré. Mais j'imagine que tu fais des petites vibes, non, en même temps.
Après, il faut suivre le groupe. Hein. Je peux pas m'enflammer, je peux pas faire des acrobaties.
Il n'y a pas de portée.
Au moment où l'arbitre siffle et que la musique s'arrête, tu laisses un petit.
Avec le nom de l'arbitre à l'intérieur.
Jean-Michel! Je peux ajouter une petite touche historique, pardon. C'est mon côté un peu.
Vas-y.
C'est pas pour me la péter ou pour faire genre ouais, moi j'ai écrit un mémoire.
Non, mais pète-la toi.
S'il
te plaît, toi t'as écrit une thèse.
Mais à côté, Sophie a écrit une thèse. Non, j'ai écrit un mémoire, Sophie. Donc ça n'est pas du tout le même délire.
Moi, je ne dirais pas.
Oui, mais on ne le dit pas assez. Et là, ça va être mon côté très sororité qui ressort. En fait, pourquoi pas? Pourquoi on se la pèterait pas un petit peu?
Je vais me la péter alors.
Voilà, merci.
Les intestins, c'est fait pour ça.
Il y a un côté d'un morceau de BTP, tu peux faire la bibliothèque, je veux dire.
C'est
Sophie,
un mur solide.
Rentrer.
Tu peux t'appuyer contre ce mur qu'est Sophie.
Un mur porteur.
Ouais. Vas-y Valentine.
J'adore.
Un peu d'historique.
J'adore les jeux de mots un peu pourris. Enfin, pas pourris.
Juste pas les jeux de mots. Allez, on enchaîne le jeu. Tu vas pas te la péter. Alors.
Heureusement que cette série dit avec ou sans rudesse.
La touche historique, juste. Bon, du coup, j'ai écrit un mémoire là-dessus. Bon, bref. Et du coup, il y avait une partie où il fallait que j'explore un peu c'est quoi l'histoire de l'impro entre guillemets, mais sans que ce soit exhaustif, hein, parce que c'est en fait ça n'a jamais de fin. Ouais. Et du coup j'ai un peu visité, enfin lu pas mal de bouquins, pas mal d'articles, et vu un peu quels étaient les grands formats. Et donc étant donné que j'ai été partie à Montréal, qui est vraiment
la terre mère, comme tu as dit,
la terre mère du match d'impro, du coup je me suis renseignée sur l'émergence du match d'impro et quelles étaient les intentions des fondateurs,
premiers,
des premiers.
C'est de boire,
de
vendre de l'alcool.
Et donc de picoler. Voilà.
Qu'est-ce que tu as trouvé dans tes recherches?
Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que Robert Gravel, Yvon Leduc, notamment Robert Gravel, lui, ce qu'il voulait créer avec le match d'impro, c'était un spectacle populaire. Donc vraiment créer un vrai lien avec le public, les comédiens sur scène. Et c'était surtout un spectacle pour challenger les comédiens. Il trouvait que le jeu était trop déclamé, que il y avait
il
y avait cette tradition française en fait de vraiment calquer le jeu des Français. Et en fait, ça a émergé du coup en 77, donc avant il y avait les 68, tout ça, et donc il y avait un vrai contexte artistique, historique, d'émulation, de volonté de changer les codes, de trouver sa propre identité en tant que Québécois. Et de là en fait a émergé le match d'impro, parce que très souvent on dit, en tout cas de ce que j'ai lu dans les bouquins de Gravel et Leduc, on dit souvent oui, le match d'impro en fait c'était pour remplir les salles parce que c'était vide. En fait, bien sûr que c'est...
Ça a aidé,
évidemment, mais c'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était vraiment de créer une nouvelle pratique artistique.
En lien avec le public.
En lien avec le public, et d'où, en fait, tous les codes de la patinoire, de reprendre les codes du hockey sur glace.
Le lieu où ils ont commencé.
Parce que c'est un sport populaire national, le hockey sur glace. Et donc, c'est reprendre les codes, comme ça, pour se réapproprier, en fait, un peu... le théâtre et écrire peut-être une nouvelle page de leur théâtre québécois. Alors après, évidemment, il y a eu plein d'auteurs hors de l'impro qui ont écrit sur le théâtre, sur la société ouvrière québécoise et ont inspiré. Mais en tout cas, Robert Gravel, à la base, c'était vraiment « Ouais, je veux challenger mes comédiens, je veux qu'il y ait un vrai lien avec le public, je veux plus qu'il y ait cette espèce de scission. » Et donc, ça venait de ça, plus que d'une volonté pécuniaire de remplir des salles.
Oui, c'était et le challenge, il était
en fait,
pour le joueur.
Et le challenge, à la base, c'était pas de mettre des équipes en concurrence.
Voilà, c'est ça.
C'est un prétexte.
Il a été décalé. Le challenge a été remis à un mauvais endroit, en fait.
Ouais, en fait, c'était vraiment de qu'il y ait un folklore, qu'il y ait une espèce de fausse compétition. Il l'écrit vraiment dans ses bouquins, c'est une fausse compétition.
Ah, c'est écrit en noir sur blanc, que tout le monde aille bien relire.
Ouais, fais attention à la fin de ta phrase.
À la base, le match, c'était ça, et donc c'était des comédiens qui avaient fait une formation théâtrale, donc hyper fort, quoi, et qui en plus se jetaient dans l'improvisation théâtrale grâce au match. Et après, oui, donc après, le match a évolué aussi, et je pense que tout ce qui le différencie, en tout cas, c'est l'approche qu'on en a. Et donc, je te rejoins quand tu dis je suis en train de changer mon regard sur le match, parce que ouais, t'as
merci,
touché
Valentine.
Un peu cette essence que je pense qui était là pour Gravel.
Voilà, en tout cas, je jouais effectivement. J'ai eu ce désamour vraiment très profond pour le match à cause de ces raisons-là qui ont été nommées, et je crois que on peut toujours changer d'avis quand il y a des belles choses à faire. Et
moi, j'ai toujours dit que le problème du match en France, c'est qu'il était mal enseigné.
Bah, tout à fait, voilà, ça va avec. Hein.
Allez, on passe à la suivante. Est-ce que tu préfères une chantée ou une sans parole ?
Oh, chantée, Valentine, ne nous dis
mais
pas
non,
sans parole.
En fait, j'ai changé de... Comment on dit ? De tessiturne ?
Tessiture.
De tessiture, parce que tessiturne,
voilà. Mais le mélange des deux est très drôle.
Les prochaines.
Du coup, ma tessiture est devenue un peu taciturne. J'ai l'impression que je n'arrive plus à sortir des notes aiguës.
Ah, tu fais un petit blocage ?
Ouais, je ne sais pas à quoi c'est lié.
Un clope ?
Que tu m'aides... Oui,
on va en parler.
Moi, ce serait une sans parole, parce que j'ai toujours eu très, très peur de chanter.
Oui, c'est vrai, Sophie nous l'avoue là, à ce micro.
Voilà, mais je prends des cours de chant et des cours de chorale, et je suis en train de faire tout un travail sur moi-même.
C'est génial que tu dises ça, parce que du coup, c'est bien, t'avais pas envie de rester dans ce blocage-là ?
Oui, enfin, ça, mais j'ai toujours eu envie de chanter. Je salue ici Madame Durand, ma prof d'anglais de 3e.
Bonjour Madame Durand.
Voilà, qui au spectacle de fin d'année a dit on va chanter, mais toi Sophie tu chantes faux, donc tu vas juste mimer les paroles avec ta bouche.
Hashtag bâtarde.
Hashtag grosse bâtarde. Voilà. Voilà.
Non mais à l'époque ça se faisait tout à fait.
C'est horrible. Mais enfin.
C'est des traumatismes. Moi ma grand-mère qui a fait quand on chantait à tutu de poète poète la valeur cette fameuse chanson avec mes cousines qui disait Baptiste ne chante pas s'il te plaît.
Baptiste tu vas faire l'arbre derrière.
C'est vrai que toi aussi tu as peur de chanter.
C'est un conseil, ce qu'a fait Sophie, je le conseille à tout le monde, si vous avez peur de chanter, soit vous allez dans une chorale pour être mêlé dans le groupe et reprendre confiance en vous, soit vous prenez un coach vocal, pas forcément un prof de chant, mais un coach vocal qui vous apprend à bien restructurer. Et oui, je me rends compte aussi que la voix, le chant, c'est vraiment proche de l'âme. C'est beau des phrases comme ça. C'est très difficile de chanter quand on a des blessures internes, et le chant, c'est un moyen de les réparer aussi.
Ouais.
Pour ça que j'ai arrêté, que j'ai abandonné, parce que j'arrivais pas à les affronter.
Mais du coup, moi, j'ai eu. En fait, j'ai fait une première chorale quand j'étais aux États-Unis où. En fait, tu faisais 4-5 séances et après, il y avait une audition. J'ai échoué, lamentablement. Donc après, je n'ai pas voulu. Ça, c'était le genre.
C'est une
l'échec.
Série américaine, ce que tu es en train de nous raconter. L'héroïne arrivera-t-elle à enfin faire un spectacle ?
Voilà. Et après, j'ai rejoint la chorale d'un improvisateur qui s'appelle Asaf. Qui est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Donc je lui fais un salut s'il écoute.
Un petit soleil, lui aussi.
Voilà, c'est ça. Et donc, grâce à lui, j'ai trouvé ma voix.
Anecdote avec Asaf, justement, il a fait la musique dans un spectacle où il fallait chanter et j'y arrivais pas, j'étais pas bien. Et voilà, et très gentiment, au début de spectacle, collectivement, il dit vous voulez, avant que le spectacle commence, on fait juste des petites vocalises, comme ça vous vous échauffez et tout. Ouais, on fait nanani, puis on s'échauffe. Baptiste, viens voir. Et il m'a fait faire 2-3 petits trucs comme ça. Et il dit c'est super, tu vas être génial comme ça. Et il m'a pris à part tout doucement. Et après, je me suis rendu compte qu'il entendait que je chantais mal et qu'il a voulu régler ça. Mais il l'a
fait
de manière très bienveillante. Génial. La bienveillance, de toute façon.
Il t'a englobé de douceur.
D'amour, comme il le fait si bien.
Moi, j'avais déjà raconté ça, mais je le redis très rapidement parce que je pense que tout témoignage peut chez des gens avoir des résonances. Moi, j'ai été phobique de chanter également, comme toi, Sophie. Enfin, phobique. Pour le coup, moi, je chantais très bien au collège. J'avais des 19 sur 20. Et puis, quand c'est arrivé à la scène, incapable de chanter sur une scène. Et vraiment, blocage, pleurs, crise de tétanie. Ouais.
Et puis, je suis choquée d'apprendre ça voilà. De Jeanne Chartier.
Voilà,
quoi.
Bah voilà, tu vois. Wow. Comme quoi,
c'est et Jeanne en Chartier, fait, mais elle a des fêlures.
J'en ai plein, j'en ai plein. Je suis très fragile.
C'est comme un
si,
mur.
Je m'en sors.
Et le plâtre.
Donc, les fondations, elle te dit.
En train de s'effondrer. non, tout ça pour dire qu'effectivement, sur mon CV, je peux compter entre autres les premières années de la création du spectacle New. C'est mon ami Faisal Ben Mamed qui, à l'époque, m'a dit Jeanne, franchement, si tu le fais pas, t'es qu'une connasse. Voilà, mais très gentiment, avec tout l'amour du monde. Et j'ai dit ok, je vais le tenter. Wow. Et effectivement, ça m'a sauvé de mes problématiques de chant. Mais avant ça, j'avais déjà eu une expérience que je raconte très brièvement ici, parce qu'elle va de pair. J'ai fait un catch impro en Belgique où j'ai dû faire une chantée sans savoir quel type de chanson c'était. Et c'est tombé sur rap, sur ma gueule. Voilà. Voilà. Et alors que j'étais encore phobique de chanter en public. Et en fait, j'ai vu les gens, donc mes potes Flavien et Faisal, se liquéfier avec moi sur le banc.
Ah ouais.
À vraiment faire presque se lever pour dire à l'arbitre, non mais on va switcher en fait, désolé mais là vraiment on peut pas. Et ils l'ont pas fait. Je leur ai fait un petit signe de tête genre, je vais mourir mais je vais le faire. Et en fait, ce jour-là, tout s'est débloqué. J'ai fait un rap des années 80 qui était vraiment à la fois ridicule mais très entraînant, et le public tout le public s'est levé, a tapé dans ses mains, a repris le refrain, et à ce moment-là j'ai couru dans les bras de mes potes et j'ai dit je crois que c'est bon, j'ai capté un truc.
C'est trop stylé.
Voilà.
Le film américain,
mais oui.
Oh my god. Et là il y a eu un feu d'artifice dans la salle.
Non mais tout ça pour dire que les zones de confort
et là, dans
le
public, le mec dont j'étais amoureux depuis une heure et demie m'a enfin vu.
C'est ça. Ouais,
ouais, t'as pété le couvercle, quoi.
Ouais, voilà, mais parce que j'étais aussi au pied du mur, c'est pas toujours agréable. Peut-être ça aurait pu être un deuxième traumatisme, ça l'a pas été, donc chacun son histoire. Mais ne nous arrêtons pas à ce qui nous fait peur, en fait. Allons voir si on peut faire péter le mur, Sophie Brossard.
Ouais.
Et en même temps, est-ce qu'on le sent pas quand on peut péter le mur, tu vois? Parce que si toi, tu t'étais sentie genre grave en danger, tu vois, en
oui,
mode...
c'est ça.
Peut-être que tu aurais peut-être commencé à
j'aurais
paniquer
fait autre chose, ouais, c'est
ou
ça.
Leur dire non, les gars, allez-y.
Et surtout,
ma place,
moi, j'encourage
quoi.
De ne pas faire c'est ce qui super. Ne nous rend pas heureux. Hein. Donc, ce jour-là, j'ai décidé de monter sur le cheval qui me faisait peur, mais j'aurais pu décider aussi de ne pas
bien
le
sûr.
Faire. Et il faut ne pas faire ce qui ne nous rend pas heureux.
Et bah, avec tous ces sujets de discussion qu'on a entamés,
oh là là.
On a des choix. Maintenant, on commence à être précis. Vous préférez une salle où vous connaissez tout le public ou une salle où vous connaissez personne?
Personne.
Ah ouais, putain. Personne. Bah, déjà, moi c'est ce qui m'arrive tout le temps. Je connais personne dans la
salle. Non, c'est pas ça. Toi, c'est que tu ne retiens les noms de personne. Donc, t'as toujours l'impression de les rencontrer pour les premières fois.
D'ailleurs, vous êtes Valentine. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce que vous faites dans ma cave? Arrêtez de boire.
Je fais une spéciale dédicace à tous les gens comme moi qui sont improvisateurs ou qui sont artistes et qui en même temps ont un boulot où t'es censé être sérieux ou inspiré du sérieux. Le pire, c'est de faire un spectacle avec tes collègues de travail.
Tu l'as fait?
Oui, moi j'ai déjà eu. Je me souviens d'un grand final des E où j'ai tout mon groupe qui est venu parce que. Enfin, le groupe avec qui je travaillais au bureau. Et ils n'avaient pas du tout aimé le spectacle et après tu dois aller travailler avec eux. Le lendemain. C'était bien, c'était intéressant.
Ah, c'est horrible.
Parce qu'en plus, tu vois, moi je préfère que les gens viennent parce qu'ils ont envie de voir de l'impro plutôt que les gens viennent parce qu'ils te connaissent.
Mais tu crois pas que des gens peuvent remplir les deux cases?
Oui, bien sûr.
On espère
je
les trouver,
mais
binaire.
Ça... Il y en a pas beaucoup,
non,
en
mais
fait.
Pas...
Mais tu vois, mes parents, ils sont pas très impro, enfin... Et du coup, quand ils viennent, j'ai l'impression que c'est plus pour me faire plaisir que pour voir du spectacle.
Moi,
alors, j'espère que c'est pas trop de la merde, tu vois, mais bon.
Mon père, il m'a vu... Donc, moi, je fais de l'impro depuis que j'ai 8 ans, donc mon père m'a vu faire du match pendant plus de 10 ans.
Ouais.
Tu lui montres autre chose qu'un match, il fait... Quel intérêt. Mon père,
ah ouais.
Mon père
ah ouais,
déteste
dur,
Fushigi.
Hein. Ah, c'est un fan, quoi.
C'est même pas... mon père déteste Fushigi juste parce qu'il dit, mais je comprends pas, c'est pas drôle.
Pourquoi il vient se marrer, en fait.
C'est pas de l'impro. Ouais, mon père, c'est son divertissement, tout ça, c'est son truc. Mais, et pourtant...
Il y a des gens, pourquoi pas.
Et du coup, c'est un critique du match, mais... Quelqu'un monte sur scène, il fait. Mais il va pas me faire rire, lui.
Il est horrible.
Il est,
Pour ça, il est horrible. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il est tranché, quoi. C'est,
Moi, j'ai eu un truc similaire où ma mère vient régulièrement voir des spectacles. Et l'année, il y a 2 ans, j'ai fait une pièce de théâtre pour la première fois depuis très longtemps où j'étais là, je vais faire du test écrit. Et elle a détesté.
Ah, oh, c'est dur. En fait, les parents en général, c'est dur, quoi.
Puis ça met la pression parce que du coup. Enfin. C'est peut-être débile, mais j'ai l'impression que ça remet en jeu toute la relation, alors que ça n'est pas vrai, évidemment. Mais tu vois,
c'est vrai que c'est un petit peu beaucoup,
c'est très
Valentine.
Non,
peut-être
c'est très
que
fort.
tu... Tu en mets beaucoup dans le panier.
C'est spectacle, t'es nul. Ouais, écoute, je te retire de mon testament. Tu n'es plus ma fille.
Ça fait 10 ans qu'on prend le nom de ta grand-mère. Je signerai pas le compromis.
Mais il y a pas un peu de soutien quand même dans tout ça, parce que bon, moi j'avoue, j'ai une famille qui est pas très en soutien, mais c'est voilà une famille parmi d'autres. Mais j'ai l'impression quand même globalement que mes amis, ils ont leur famille, leurs collègues, leurs copains qui viennent, et c'est toujours un moment un peu festif, genre ah trop cool. Il y a des petites private jokes parce que ça permet ça quand même les spectacles d'impro. Donc bon, là on a dit un peu tous les côtés négatifs parce que je pense qu'il y a une peur, effectivement, un désir d'être à la hauteur du regard qu'on porte à la relation, comme Valentine l'a suggéré. Mais il y a quand même du soutien, c'est quand même cool.
Oui, ah bah oui, heureusement. Oui.
Bah, regardons
oui.
ce qu'on a raconté, finalement, ton père, il adore venir voir du match. Donc oui, non, mais. Il y a quand même une majorité des spectacles.
Et surtout, mon père, il est dur dans ses propos, mais il va t'expliquer pourquoi. Quand il dit Fukushigi, j'aime pas, c'est pas, ça me parle pas, je connais pas, Miyazaki, je sais pas ce que c'est, ça me fait pas rire. Mais mon père m'a déjà dit ce spectacle-là, j'aime pas. Mais il m'a expliqué pourquoi, et surtout il m'a dit mais franchement je suis fier de toi, que t'aies fait ça, que t'aies ce truc là et tout, c'est cool, ouais. C'est bien, mais voilà, il va avoir les raisons pour lesquelles il aime pas, et ça va pas juste oh, c'est de la merde, viens on se barre.
Oui, oui.
Parce mon père qui est quand même, pardon, anecdote, c'est le genre de mec, si vous lui demandez de mettre une fois j'ai tiré son papier dans un spectacle, son thème c'était et dire que je suis ici alors qu'il y a du foot ce soir à la télé. tu lis le prénom de ton père, donc tu fais José, il lève la main, et là tu fais bonjour papa, et là tu lis le thème et tu fais bah, ça fait plaisir d'être venu me soutenir, vraiment.
Bah oui, il a sacrifié sa soirée foot pour
ouais,
toi.
Bah, le foot, c'est sacré.
Finalement, c'était une belle déclaration.
Non, parce que juste, je voudrais quand même vous poser la question. On est parti du principe que le spectacle se passait mal. Mais si non. le spectacle se passe hyper bien, vous préférez pas que ça soit qu'une salle de gens que vous connaissez ouais. qui se lèvent et qui vous applaudissent?
Les gens que tu détestais au lycée.
Par exemple.
Mais en fait, il y a ce truc que, tu vois, avant de jouer un spectacle, je me chie un peu dessus. Et donc, du coup.
Le mot est dit, hein. Donc,
voilà, on va le
garder. Caca est dit.
Excusez-moi. Non, mais littéralement, quand tu fais un spectacle avec Val, tu sais que les 15 minutes avant, elle va être aux toilettes.
Oui. Ah, voilà. Bah, si Sophie. Ah, voilà. Ah, on a trouvé l'imperfection de Sophie.
Elle balance les dossiers.
Elle balance les dosses. Non, en vrai, c'est pas vrai. Je fais pas caca avant. Je fais le pipi un peu de stress. Déjà après. Ça dépend des spectacles.
T'es pas obligée de te justifier.
Non, mais merde. Je suis en train de.
Tu creuses.
Je m'enfonce. Puis même c'est si elle fait caca, elle est très discrète.
Ah bah, Sophie est vraiment... une connasse. C'était le truc de départ.
J'avais dit qu'on y a... Je l'ai prédit. Je suis un peu. Je suis médium.
Le
je vous
ciment
le
a craquelé. On a vu sa vraie identité.
Il y avait des grumeaux dans le ciment.
Ah, mais ouais.
En fait, elle a pas de filtre. C'est surtout ça.
J'adore. Ouais. Mais moi, je kiffe.
Quelle était la question?
Oui, juste avant un spectacle, tu dis oh, j'espère qu'il y a personne dans la salle qui me connaisse, mais même si quand même tu finis quand même par inviter des gens parce que t'as envie de partager ce moment-là.
Parce que c'est l'impro à Paris,
parce que
donc tu espères d'avoir du public.
Donc,
et puis la notoriété aussi, à un moment donné, les gens viennent.
Bon, on coupe tout le temps la parole à Valentine, hein, je veux pas, mais
franchement, t'écoute. Vous avez pas vu la moue de Baptiste, mais c'était incroyable.
Les gens la connaissent.
Et non, c'est vrai, quand tu fais un super spectacle et que t'es fier, tu dis oh putain, merde, j'aurais peut-être dû inviter les gens.
Et ouais, c'est là où t'es deg.
Je suis d'accord.
Quand même.
D'ailleurs,
je voulais rappeler ça.
C'est vrai.
Tu préfères suivant? Tu préfères 10 personnes dans le public, mais à fond standing ovation à la fin, ou 100 personnes et un cimetière qui ne réagit pas tout du long?
Non, mais c'est l'enfer.
Après,
est-ce que t'es producteur du spectacle ou est-ce que t'es juste comédien?
En tant que productrice de beaucoup de spectacles dans les quelques jours, 100 personnes qui payent,
c'est quand même pas mal. Mais alors là, c'est le cœur, c'est la comédienne qui parle.
Moi, je joue plutôt dans des petits théâtres où 10 personnes, c'est l'équivalent de 100 personnes. Donc,
ah oui, c'est vrai. C'est vrai que globalement, de toute façon, l'improvisation n'a pas encore trouvé sa place dans les programmations de théâtre plus classiques qui permettent un accueil.
J'avais envoyé un formulaire à la
personnes.
Comédie Française, j'ai toujours pas eu de réponse.
Ah, je comprends
Ils sont
pas.
Fermés en ce moment, Sophie. Peut-être autant d'ici quelques mois.
Ils
sont pas disponibles.
Le prends pas pour toi. Ok, est-ce que t'en as un autre?
Allez, un dernier, on en a un petit peu parlé. Tu préfères un public à la sortie qui te dit c'est sûr, c'est écrit, ou qui te dit c'était pas facile les thèmes ce soir, mais bravo?
Oh non, c'est sûr, c'est écrit quand même. Moi, je trouve que c'est un beau compliment. Enfin,
bah oui, oui, finalement.
On y croit.
Bah oui. Oui, parce qu'après, tu peux faire « Ah non, 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 on improvise complètement. »
Mais va aux États-Unis, là-bas, ils ne nous posent pas la question. On a répondu.
Oui, bah, c'est vous, c'est vos réponses à vous. C'est la fin de ceux que j'avais préparés. Je ne sais pas si vous en avez d'autres qui vous restent en fond de...
Eh ben, Sébastien avait quand même donné « Avec ou sans rudesse », que je trouve à la fois intéressant et un peu genre « Bah... » La réponse est dans la question.
Bah,
et donc,
moi,
tu préfères avec rudesse ou sans rudesse?
Avec rudesse.
Ouais, moi, je veux dire avec rudesse, mais parce que les gens n'ont pas la bonne définition de la rudesse.
Ah, voilà. Alors, les amis de la rudesse, quelle est votre explication? Parce que je suis un peu perdue.
Moi, je suis comme Jeanne, j'ai besoin d'avoir...
Nous, dans la team bisounours. Des gens sympas qui ont fait... Voilà, qui sont...
Mais la rudesse, c'est pas forcément être sympa.
Non, mais la question, c'est quelle est ta définition de la rudesse, Baptiste et Sophie?
Ah, voilà. Parce qu'on reprend le lead du catering. Hein. C'est maintenant Valentine qui va.
Bien, je suis devenue invitée.
Alors, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de badge, mais ma compréhension de la rudesse, c'était des gens qui proposaient des choses ou qui prenaient un peu trop les rênes sur scène.
Qui font, oui
voilà, qui freinent un peu. Et j'aurais envie de dire que moi, ça me dérange pas quand les gens proposent. Et vont assez loin.
Alors, on parle bien de théâtre, là. On est bien dans l'impro. Hein.
Oui, dans l'impro.
On n'est pas sur une métaphore...
sexuelle, non.
Ouais, voilà. Okay.
Le BTP.
J'ai eu un enfant il y a un an.
La truelle.
Elle n'a pas de filtre. Hein. C'est formidable.
Un parpin.
Parping.
Le parpin sans filtre.
Le parpin non, podcast.
J'aurais envie de dire... moi, ça me dérange... Pour moi, la rudesse, c'est une manière... on a appelé ça rudesse pour éviter que, en gros, des trop gros égos prennent toute la place.
Et encore
sur
une
scène.
Fois.
Oui, l'ego.
Non, mais des grandes... Pardon, des grandes personnalités.
Oui. C'est beaucoup plus...
ça a plus de syllabes, donc c'est plus...
Communication non violente.
Voilà. Alors que, finalement, il y a un peu un côté où... Mais après, c'est une question de personnalité aussi sur scène, où si tu me proposes beaucoup de choses, ben, je vais proposer encore plus. Et on va s'amuser avec.
Donc toi, ça te challenge, en fait, la rudesse. Tu le vois pas comme quelque chose qui te bloque et qui te freine et qui te mettrait presque un peu en colère, parce que c'est souvent, moi, les retours que j'entends, c'est ça m'a mis en colère, j'avais plus envie de jouer, j'aime pas ce joueur ou j'aime pas cette joueuse, parce que y a trop de rudesse. Toi, au contraire, tu dis, ah, tu me challenges, alors je vais répondre à ton challenge.
Ouais, et je pense que ça vient aussi, cette idée de rudesse, ça vient aussi que, par exemple, sur le match, souvent les mixtes, tu prépares quand même, t'as quand même un caucus, alors qu'il n'y a pas grand chose à préparer, tu vas jouer avec d'autres personnes. Mmh. Et donc, pour moi, j'ai du mal à préparer ce que je vais faire. Donc, finalement, je ne vais pas le vivre comme une rudesse, parce que je vais juste voir quelqu'un qui me propose quelque chose. Cool, t'as une idée, allez, vas-y, on fonce. Moi, j'avais rien.
Ah, c'est ça, parce que t'as jamais rien. Du coup, vite pour moi un truc. Et toi, Ben, c'est quoi ton...
Moi, ma définition, la rudesse, c'est pour moi, déjà, principalement, en tout cas, en tant qu'arbitre, quand je siffle une rudesse, c'est quand elle est physique. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre quelqu'un par le bras et tirer d'un coup. En fait, pour moi, la rudesse, c'est quand on force quelque chose à son partenaire avant qu'il donne son accord. C'est-à-dire que, donc, elle est avant tout physique. C'est tout ce qui va être...
Ça peut être verbal, hein.
Alors, ouais, oui,
quand
mais...
tu fais une dotation qui est un peu dégueu...
Bah pour moi, les dotations, c'est pas de la rudesse. Merci. C'est-à-dire que créer un lien, créer quelque chose, toi, ça va pas être de la rudesse. C'est là où on en vient à... C'est quand tu forces à faire quelque chose à l'autre dont il n'a pas envie. Imposer un accent, par exemple, ça, j'ai plus le mettre dans une rudesse.
Bah, oui, voilà. C'est le cas.
Bah, oui.
Mais je sais, mais moi, tout ce qui est, comme le disait très bien Sophie, tu viens avec ton idée, tu l'exposes, tu donnes la situation, tu crées un lien à l'autre.
Mais est-ce que ça, c'est vraiment de la rudesse?
Voilà. Ah, bah, voilà, en fait, oui, mais voilà. On avait mais juste moi, des définitions c'est différentes. C'est vrai que moi, j'avais
pas pensé. J'ai plein de gens qui disent, mais ça a été hyper... Il a fait de la rudesse, il m'a donné mon prénom.
Non, mais là, c'est pas la bonne définition de la rudesse.
Mais fallait préciser, elle était mal posée, la question.
Il y a un truc
très mal posé. Sébastien Serra, franchement. Moi, il y a un truc que parfois, j'ai mis un peu de temps à comprendre aussi dans le match. Donc
c'est pas grave, tu prends tout ton temps, Valentine.
Voilà. Je suis en train de comprendre que je suis en train pour d'enregistrer
faire
un podcast.
Dessus.
C'est bien. Et puis demain, tu comprendras que t'as dormi chez toi, t'es rentrée chez toi.
En métro.
Voilà.
Mais la soirée n'est pas finie.
Non, que j'habite à Paris et que j'ai 27 ans.
Mais c'est parfait. Alors maintenant que tu viens de nous faire ton CV psychologique.
Tu vas parler, nous emmerder. La rudesse, pour moi, c'est connoté péjorativement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand on impose... ou quand on met dans un malaise le partenaire de jeu, que ce soit physiquement, verbalement, artistiquement...
Et sexuellement, puisque ça rentre dans la...
Sexuellement. Donc pour moi, rudesse, si c'est une faute, si elle a été établie comme une faute au match, sifflée, c'est parce que oui, c'est une faute et que du coup, elle
oui,
est négative.
En fait,
pour moi, c'est de la construction.
La rudesse, c'est pas une règle, c'est une limite.
Ouais.
On va pas jouer en faisant... Alors non, je vais pas tourner cette phrase-là comme ça, mais je vais pas jouer en faisant attention à pas brusquer mon partenaire. Je vais jouer en respectant mon partenaire. Je vais pas le pousser, je vais pas lui forcer à faire des trucs qu'il veut pas. Et c'est en ça, pour moi, où il y a un problème dans la définition de la rudesse, la perception de la rudesse chez les gens. C'est qu'ils sont en mode mais tu m'as dit ça pour moi et j'étais pas d'accord. Et à un moment donné, il y a des personnes qui font des dotations parce que l'autre ne réagit pas. J'ai besoin de cette information là pour jouer, tu me la donnes pas, elle est là. Et voilà, c'est là.
Moi, j'avoue que quelque chose de sexiste ou de raciste ou de violent, même si c'est proposé poliment, peut aller se faire foutre.
Alors du coup, ça me permet d'ouvrir ce petit encart que j'aurais voulu aborder avec vous, notamment parce que je sais que Sophie, tu as été dans un groupe qui est né de ton voyage aux États-Unis, qui a permis de ramener aussi ça en France sur la protection des joueurs et des joueuses dans l'improvisation en termes d'abus sexuels, d'abus de pouvoir en fait, hein, que pouvaient avoir certaines personnes dans des compagnies. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Où est-ce qu'on en est? Quel
alors
est votre avis là-dessus?
Alors, je ne vais pas m'attribuer des choses que j'ai pas faites.
Tu as participé.
En gros, quand moi, j'étais aux États-Unis de 2014 à 2017. Et donc, ça a été le moment où il y a eu tout le mouvement MeToo qui a commencé et où, du coup, il y a eu du mouvement MeToo aussi dans le monde de l'improvisation.
Surtout aux États-Unis.
Aux États-Unis, à Minneapolis, où on a découvert qu'il y avait parfois des improvisateurs qui utilisaient le fait qu'ils avaient une position de pouvoir pour peut-être draguer des improvisatrices en mode mais aussi si tu dis non t'as plus forcément une place dans mon spectacle. Et du coup moi en mode ingénieur je me suis dit moi je peux vous aider à faire le site, moi je peux aider à écrire, je peux mettre des virgules après les points, enfin ça m'a intéressée donc je me suis inclue là-dessus, mais j'ai pas forcément été motrice
bien sûr.
Donc mais l'idée en tout cas, et c'était assez c'était l'avantage, c'est qu'on a mis assez rapidement un cadre. C'était proposer aux gens d'écrire, par exemple, au théâtre et aux compagnies. Il y avait le Youth Theatre, mais il y avait le Comedy Sports et différents organismes comme ça, de leur proposer d'écrire des chartes et de dire clairement si vous utilisez votre position de pouvoir, si vous faites des choses qui sont en dehors de telle et telle limite, elles n'ont pas leur place ici et on vous en parlera et peut-être que vous serez exclus. Donc c'était vraiment
mettre un cadre qui n'avait jamais été mis en fait.
Voilà, c'est ça.
Et tu as ramené cette charte ici en France.
Alors j'ai pas ramené grand chose puisque moi je suis
rien fait, en fait.
J'ai rien fait. Moi j'ai rien fait, absolument rien.
Tu rajoutes ton nom à la fin des documents.
Moi je peux signer là, il y a pas de problème. Je signe ta pétition, mais je ne ferai rien d'autre. Non, après quand je suis revenue ici, il y a des personnes qui l'ont fait sans moi et qui l'ont fait très bien. Odile Cantero, il y a plein de gens comme ça qui ont fait des choses.
Christelle Delbrouck.
Qu'on fait des choses aussi en parallèle avec la même histoire. Et en plus, ici, c'est plus difficile parce que c'est beaucoup plus morcelé. C'est plus facile quand tu as un endroit, un lieu de l'impro.
Oui, et que ce sont des spectacles qui tournent et pas des compagnies
isolées. Voilà, que ce soit un lieu. Et du coup, le lieu, il peut avoir une charte. Si tu veux jouer là, tu dois respecter cette chose-là. Alors qu'aller dans chaque petite compagnie, dans les 500 compagnies d'improvisation, essayer de faire passer quelque chose, c'est autre chose.
Enfin, ce qui est bien, c'est que maintenant, ça devient quand même un sujet qui est abordé, qui est discuté, qui est envisagé dans les compagnies professionnelles, enfin, je le souhaite, amateurs de plus en plus, voire même, j'ai l'impression que le mouvement est parti des troupes amateurs pour remonter aux troupes professionnelles, comme s'il y avait encore plus de tabous à partir du moment où c'était professionnel. Mais bon, je mets ça là, j'ai pas de réponse vraiment à ça. Le week-end dernier encore, je faisais partie de ce festival Latitude où il y avait carrément un moment qui était consacré à cette conversation. Et je me dis, c'est cool, c'est bien. On est évidemment, comme tout combat et encore plus féministe, loin d'un résultat qui peut satisfaire la majorité, mais c'est bien de voir que les choses bougent. Valentine, t'es aussi très active dans tout ça. Le festival, je me permets, on en parle un peu.
Permets-toi.
Le Wonder Festival qui va se dérouler, on le souhaite, en mars. Il tourne autour de ça un peu, mettre en avant la femme.
Oui, d'ailleurs tu parlais du festival Latitude et c'était super intéressant avec le groupe Rudess qui a émergé au Québec contre les violences sexistes et sexuelles en improvisation. Donc, comme l'a dit Sophie, ouais, avec la mouvance MeToo, etc., il y a les paroles qui se... les langues qui se délient un peu, la loi du silence qui est de plus en plus écrasée, en tout cas qui se soulève petit à petit. Donc ça, c'est vraiment rassurant. Et oui, il y a le Wonder Impro Festival, qui est un festival d'improvisation théâtrale féministe. Donc l'idée féministe inclusif, l'idée c'est de visibiliser les femmes et toutes les personnes qui s'apparentent comme telles, enfin qui s'identifient comme telles, pas qui s'apparentent du coup, mais qui s'identifient comme telles, et également la diversité des genres.
Très bien.
Donc voilà.
Les YEL.
Exactement, les personnes non binaires, les personnes transgenres. toute en fait la communauté LGBTQIA+.
Et on insiste bien, le festival les met en avant, mais ne part pas du principe qu'ils n'ont pas leur place. C'est juste un endroit où, particulièrement, ils ont plus de visibilité parce que c'est le principe même du festival.
Non, et en fait, l'idée, c'est de les visibiliser, de leur donner un peu plus d'espace de parole. Donc, on va aussi créer un podcast dédié à ça, à ces questionnements-là, c'est-à-dire comment on déconstruit des clichés, comment on s'interroge sur nos propres déterminismes, les comportements qu'on peut avoir intériorisés en tant que femme, qui sont des réflexes, notamment dans la pratique de l'improvisation théâtrale, où en fait on sait qu'on joue avec ce qu'on est, avec notre spontanéité, et qui dit spontanéité, c'est tout ce qu'on a pu intérioriser depuis très très longtemps, qu'on n'a pas forcément conscientisé, encore une fois...
Culturel.
Voilà, il n'y a pas de reproche ou quoi, c'est juste on voudrait ouvrir un espace de dialogue entre les artistes, les spectatrices, même le lieu accueillant, les personnes du lieu accueillant, etc. Donc les internautes, parce que du coup, va y avoir des podcasts. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espèce d'espace de parole, de dialogue, d'échange. Et donc l'idée, c'est de mettre en avant dans la programmation peut-être des spectacles... Pardon.
Tu as un appel de qui ?
Écoute, j'ai une...
C'est la pilule ?
Non, je vais pas répondre.
Quand il y a un son qui sort, peu importe ce que c'est, en général, en plus, aux alentours de 20h, c'est le réflexe, je fais toujours une pilule ?
Je suis vénère, ça m'a cassé.
C'était bien ton discours, moi je t'écoutais. Donc le principe, c'est de mettre en avant ça.
Et de parler de thématiques un peu nouvelles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le consentement sur scène ? Comment on déconstruit des clichés, comment on parle de la diversité des genres, qu'est-ce que c'est qu'une scène, que des scènes engagées, comment on peut mettre sur le plateau un propos politique,
Sans
politique. En avoir peur. Donc là, il y a Christelle Delbrook qui nous accompagne là-dessus. Il va y avoir des thématiques aussi sur la transgénération, qu'est-ce qu'on se transmet de génération en génération en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne non binaire. Enfin voilà, donc en fait, on essaie de mettre sur le devant de la scène à la fois des personnalités, des personnes, en leur laissant la liberté de se définir comme elles le veulent, mais qui, du coup, traditionnellement, on peut ou pas la parole dans des espaces comme les festivals ou les podcasts.
Là où je te rejoins, et après je laisserai la parole.
C'est compliqué,
c'est ça.
En fait.
Je te laisserai la parole après, Baptiste. C'est que je vois très rarement, mais moi la première, et donc c'est un travail que je fais avec moi-même, des scènes où j'interprète moi-même quelqu'un qui, par exemple, serait dans une recherche de sa personnalité profonde, de son genre. Je fais pas de scènes comme ça, moi. Et je me dis, en fait, ça me fait chier, j'aimerais faire des scènes comme ça. Pourquoi j'y pense pas ? Et j'aime pas trop, en plus, ce terme. C'est Elsa, justement, du Festival Attitude, qui a utilisé ce terme en disant, j'aime pas, j'ai arrêté de dire ça, mais elle dit minorité, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on les voyait. Et en fait, ce sont pas si mineurs, ces personnes-là. Donc, ces personnes-là, je dis ces personnes-là, c'est très positif, c'est pas du tout une façon de pointer. Et du coup, je trouve ça génial, parce que du coup, il ne faut pas non plus jeter la pierre, on fait comme on peut avec ce qu'on est, avec ce que la culture nous a permis de vivre. Mmh. Et je trouve ça génial, un peu comme ce que les féministes ont réussi à faire il y a déjà maintenant 5-10 ans, d'avoir cette émergence nouvelle. Mmh. Et je souhaite que d'ici 3 à 5 ans, on retrouve des scènes tout à fait naturelles, qui mélangent toutes ces problématiques. Sans que ça soit des scènes spéciales, en fait. Sans qu'on se dise que ça devienne spécial.
Nous, ça peut sonner un peu bisounours, mais pour autant, on est un festival, du coup, politique. Parce que l'idée, c'est de proposer aux personnes d'être les personnes qu'elles veulent être, peu importe ce que peut...
Sans se poser de questions.
Ouais, ce que peut dicter la société, voilà. Et puis peut-être sensibiliser aussi à cette question de sensibilisation, d'éveiller, sur des nouveaux questionnements. Et on s'en fout, on veut pas produire des réponses, on veut juste produire des questionnements et un peu plus de liberté d'être qui on veut être sur scène. Et voilà, donc c'est un peu essayer de provoquer des prises de conscience et du dialogue autour de ça.
Moi, j'avais une interrogation parce qu'en préparant l'émission avec Jeanne, donc on prépare des jeux, on a ces trucs-là, et en fait, on est arrivés tous les deux face à une interrogation, et en fait, du coup, je vous la partage parce que votre avis nous intéresse. En fait, j'avais imaginé de faire un jeu qui tournerait autour du féminisme, en fait, que j'avais appelé Conféminisme. Voilà, c'était des questions sur le féminisme, mais en cas d'erreur, il fallait faire une confession. Parce que je trouvais ça intéressant de se dire les moments où, de confesser les moments où, en fait, aujourd'hui, je sais que c'est une erreur et je le ferai plus. Et en fait, on s'est posé la question de se dire, est-ce que vraiment je fais ce jeu-là parce que on vous invite, et est-ce que c'est une bonne chose de faire ce jeu-là parce que vous venez et on sait que vous avez des engagements là-dessus, et au final, après une rapide réflexion...
Non, j'étais plus cash. J'ai dit, mais attends, Baptiste, si on s'arrête deux secondes, est-ce que finalement, on ne fait pas ce jeu juste parce que c'est deux femmes qu'on invite
voilà,
aujourd'hui?
Voilà, c'est ça. Et en fait, on a fait une technique, on a fait une Noémie Delattre.
Oui.
On a remplacé femme par noire. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que si on avait invité deux noirs, on leur ferait des questions sur le racisme? Et je me suis dit, non. Donc du coup, on a décidé
en fait,
de faire cette émission...
En fait, vu qu'on ne l'avait pas fait en amont avec des
sur
hommes...
Sur le BTP, voilà.
Il n'y a pas de raison qu'on le fasse à partir du moment où ce sont des femmes. Par contre, que le sujet nous intéresse, c'est super. Mais du coup, on le fera peut-être, on le fera commencer en tout cas sur peut-être des invités mixtes. Et puis après, on l'étalera sur d'autres invitations. Mais ouais. Là, le fait est que vous êtes nos premières et on en est très heureux. Binôme féminin. Je suis vraiment ravie, très contente. On l'attendait depuis longtemps. Voilà, c'était pas toujours facile de trouver des dispos pour les gens et tout ça.
Il faut savoir qu'au maximum, on essaye d'avoir des invités mixtes, d'avoir à chaque fois un homme, une femme.
Ou pas, en fait, parce que justement, je veux pas cet équilibre absolument.
C'est ça, on essaye au maximum, et la vie a fait qu'on s'est retrouvé à trois émissions de suite avec que des invités garçons. Et on s'est dit, ça serait bien de contrebalancer un petit peu.
Mais oui, puis surtout qu'on est quand même des personnes exceptionnelles avec Sophie, je veux dire, on est un peu des stars.
Bah déjà ouais, star, ouais clairement entre un mur et une vibes.
Non mais pour rebondir sur vos interrogations, parce que finalement moi c'est des choses que j'ai tout le temps, c'est pas parce que les gens pensent que je suis féministe que je me dis ah bah oui moi j'ai toutes les réponses,
ouais.
En fait il y a plein de choses que moi je sais que je ne sais pas, il y a plein d'erreurs que je fais, Val pourra le dire aussi, il y a plein d'erreurs qu'on fait et qu'on a fait.
Non, tu es parfaite.
J'aimais bien aussi je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit sur festival politique.
Oui.
À partir du moment où tu fais un truc où tu dis féministe, où je vais mettre en valeur par exemple, je vais mettre en valeur les femmes ou les personnes non-binaires, etc. Tu dis, ça veut dire qu'elles ne sont pas assez mises en valeur. Et déjà, rien que ça, il y a des gens qui vont entendre ça comme « Ah, mais ça veut dire qu'elles ne sont pas assez en valeur. Attends, moi, je trouve que je fais très bien. » Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on sait forcément comment les mettre en valeur, on sait forcément faire les choses correctement, on sait forcément même quel chemin il faut prendre. Et du coup, c'est juste que nous, on s'est dit, on va se poser des questions. Mais moi, je ne me vois pas du tout comme une référence féministe, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais. Quoi.
On peut être féministe sans être une référence. Hein, les soldats sont bons.
Et d'ailleurs, dans l'équipe, pour nous, c'est un vrai apprentissage. Dans l'équipe du Wonder, on a eu énormément de conversations, de questionnements, on n'est pas d'accord forcément sur des notions, sur le féminisme, etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas tant qu'il y a raison, on s'en fout, c'est de savoir comment on évolue, comment on arrive à déconstruire petit à petit tout ça, comment on se pose des questions. C'est le questionnement qui est intéressant, c'est pas tant les réponses en fait, c'est comment on re-questionne aussi nos modes de vie chacun et pourquoi. Comment on re-questionne aussi nos situations qui nous ont gênées ? Comment on arrive à les analyser ? Comment on arrive à en parler ? Comment on arrive à lever le silence sur celles-ci ? Nous, ce qu'on propose avec le Wonder Impro Festival, c'est vraiment un espace... Enfin, mais vraiment, après, les artistes, ils font ce qu'ils veulent dedans.
Bien sûr.
Il faut qu'il y ait évidemment, de leur part, une conscience féministe, politique, quand même. On choisit pas des artistes au pif. C'est vraiment des personnes qui ont envie de proposer quelque chose de nouveau sur scène, mais toujours dans cet esprit de bienveillance, de dialogue. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là et on apprend énormément. Genre, pour moi, le féminisme inclusif, je ne savais pas du tout ce que ça englobait. En tant que femme blanche cisgenre, pour moi, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un d'autre, de quelqu'une d'autre. Enfin, en fait, qui suis-je pour parler au nom des gens ? L'idée, c'est juste de leur dire, écoutez, nous, on a envie de créer ça, vous êtes chaud, ok, on discute un peu ensemble, est-ce que le feeling passe ? Est-ce qu'on a l'air plutôt d'accord ? Est-ce qu'on a des envies ensemble politiques d'ouvrir d'ouvrir la conversation, la discussion ? Oui, ok, allons-y, let's go. On teste, on est là pour tester. Hein, on n'est pas là pour dire il y a telle règle.
Mais je pense que peu de gens le voient comme tel, et s'ils le voient comme ça, c'est qu'ils n'ont pas compris la problématique.
Et pour rebondir, par exemple, parce qu'il y a un improvisateur qui a posé, est-ce que vous avez eu des situations où la femme subit des violences ou du harcèlement en match ou en impro ? Par exemple, moi, j'ai vécu, j'ai souvenir d'une scène aux États-Unis. Après, justement, où on avait eu le mouvement MeToo, où on avait mis en place ce mouvement qui s'appelait Fair Play, où c'était une scène, et puis en plus, c'était un format où on ne pouvait pas sortir. Tu rentrais sur scène et il fallait attendre que quelqu'un rentre pour couper ta scène. Et j'ai eu une scène, je crois, moi, je m'assois sur une chaise et il y a un autre joueur homme qui vient derrière moi pour faire un coiffeur. Et qui commence à me coiffer. Et en fait, moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais il a voulu jouer à un pervers et il a commencé à mimer de se masturber derrière moi. Et en fait, moi, ça m'a complètement traumatisée, dans le sens où dès que quelqu'un a coupé la scène, je suis sortie et je suis partie de scène et j'arrivais pas à en parler. Et après, ça a été très bizarre d'arriver à trouver les mots pour parler de ce qui s'est passé, parce que lui était super gêné, mais en même temps, pour lui, c'était pas un choix contre moi, parce qu'il voulait juste jouer quelque chose et il comprenait pas, etc. Et donc, il y a une partie, déjà, c'est juste apprendre à en parler, pour apprendre à trouver nos limites, pour apprendre à trouver notre... Enfin, quelles sont les choses qui sont OK, qui ne sont pas OK. Et parfois, il y a des choses qui, pour quelqu'un, vont être OK et qui ne vont pas être
chacun
OK pour
limites,
l'autre
ouais.
personne. Et une partie importante de ce qu'on avait fait avec Fairplay, c'était essayer de proposer qu'il y ait des check-up en début de cours, à la fin des spectacles, pour dire bah, ça, j'étais OK ou ça, j'étais pas OK. Et notamment quand tu joues avec des gens que tu ne connais pas, apprendre à connaître nos limites, parce que...
Elles ne sont pas pareilles
pour tout. Et le but, c'est que tout le monde joue et se sente à l'aise à ce niveau-là.
Merci pour ce partage d'expérience. Tu disais que tu avais aussi une anecdote, Valentine.
Oui, et notamment dans la pratique improvisée, en fait,
oui.
où en fait, la peur, des sentiments de panique ou quoi peuvent provoquer des comportements chelous, mais qui ne sont pas excusables pour autant. Voilà, je voulais juste dire que dans la pratique improvisée, enfin dans l'improvisation, quoi, j'ai l'impression qu'on est plus souvent confronté à ce genre de comportement sexuel, sexiste, irrespectueux. Et oui, moi, une fois, c'était il y a quelques années, je jouais et en fait, j'ai été... Pardon. Je trouve ça drôle, mais c'est peut-être la gêne qui parle.
Oui, sûrement.
C'est gênant, donc j'en ris. C'est ma manière peut-être de prendre du recul et de me protéger. J'ai été prise en sandwich par deux hommes. Alors, je m'y attendais absolument pas. Moi, j'étais en train de construire une scène, enfin voilà, et tout. Et en fait, déjà, ça a été violent physiquement, parce que je sais pas dans quel délire ils étaient, mais ils se sont retrouvés, ça a fait genre vraiment crêpe. Donc moi, j'étais au milieu, hein. Je suis pas épaisse non plus.
T'es pas dans le BTP, quoi.
Je suis pas dans le BTP, quoi. Enfin voilà, je veux dire, je suis pas dans la cimenterie, quoi. Et donc déjà, ça, physiquement, c'était violent. Et psychologiquement hyper violent, parce que humiliant au possible. C'est-à-dire que t'es sur scène, tu t'y attends absolument pas, c'est vraiment le coup de la surprise, t'es en train de construire une scène, et en fait tu te fais écraser, enfin vraiment, mais littéralement, j'ai pas d'autres mots, quoi.
Et surtout coller, en fait.
Et écraser, coller, toucher, écraser physiquement, et écraser psychologiquement.
Tu t'es sentie...
Artistiquement, on écrase ce que je propose, quoi. Et ça m'a... Ouais, je pense que j'ai eu un vrai traumatisme, enfin... Un vrai traumatisme en me disant oh, c'est pas très grave, hein, et puis de toute manière ça a fait rire le public, mais en fait moi ça m'a fait absolument pas rire. Et plus tard, je me suis dit, je pense que je me laisserai plus jamais faire, quoi. Il y a quelque chose où, en fait, soit je quitte la scène, soit après coup, je vais voir les personnes. J'ai pas eu le courage, malheureusement. Parce que, en fait, j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Et il y a ce truc-là, que là, c'est en train de se...
Disons qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que finalement, c'est presque même pas à toi d'avoir le courage, c'est au reste du groupe.
Bien sûr.
C'est ceux qui ont vu la scène de dire, stop, ce qui s'est passé là, on s'en excuse, on ne le cautionne pas, messieurs, ne le refaites pas. Voilà.
Et nous aussi à avoir le parce que tu le vois, parce que tu as l'exemple, parce que tu l'as intégré, de te dire mais ça ok, c'est pas ok, et j'ai le droit de trouver pas ça ok.
C'est sûr.
J'ai eu un partenaire d'impro qui était quand j'étais en Australie, donc il y a encore plus longtemps, qui était un très très bon pote, quelqu'un avec qui je m'entendais énormément. Alors pour ceux qui me voient pas physiquement, moi je suis quelqu'un avec une assez petite poitrine, ça ne me dérange pas, mais il passait son temps à faire des blagues sur le fait que lui il aimait les gros seins et qu'il essayait de toucher mes seins et qu'il n'arrivait pas à les trouver, y compris sur scène. Et il m'a fallu longtemps pour intégrer que j'avais le droit de ne pas être OK là-dessus et de ne pas accepter qu'on me touche les seins sur scène. Mais tu as tellement intégré que
c'est ton pote,
que tu as déjà de la chance d'être là, qu'il te laisse jouer avec toi, qu'il faut être drôle, etc.
C'est ouf.
Et donc, le mouvement MeToo, là où il a été très puissant, c'est ce côté libérateur de parole où on te dit c'est ok de dire que t'es pas d'accord, et il y a des gens qui vont t'écouter et il y a des gens qui vont dire qui vont être d'accord avec toi, et ta parole elle a de la valeur et t'as le droit de pas de t'opposer.
Ouais, et la double peine, c'est qu'on est victime et on se culpabilise de ça. Donc c'est à dire que on est à la fois victime de personnes extérieures ou d'une situation, et en plus de ça on va se culpabiliser nous-mêmes, de dire Oh non, mais tu vois, ça a fait rire tout le monde. Bon, c'est peut-être toi, en fait, qui, oui, mais en même temps, et pourquoi t'as pas réagi? Enfin, tu vois, il y a une espèce de double peine qui est terrible, quoi. Et donc, du coup, qui nous enlève de la puissance encore plus, quoi. Mmh. Et qui fait qu'on a honte. Enfin, généralement, les victimes ont honte d'avoir vécu ça, alors qu'elles sont victimes. Et que les personnes qui devraient avoir honte, c'est justement les agresseurs, quoi.
Moi, à l'inverse, moi, j'aimerais mettre en valeur de bons comportements. Oui. Parce que ça m'est arrivé aussi de subir des choses que je voulais pas. Mmh. Et qui, en plus, c'est un autre débat, c'est quelque chose de totalement différent, mais ça existe aussi dans l'autre sens. Et c'est compliqué pour un garçon de dire, bah, en fait, une fille m'a fait ça et j'étais pas d'accord. Mmh. Je vais pas dire leur nom, mais elles ont été des amours. Dans une improvisation, j'avais un chewing-gum dans la main. Mmh. Et on allait partir du principe que j'allais rester coincé sur la première chose que j'allais toucher. Et l'improvisatrice, qui jouait, a attrapé ma main et l'a mis sur son sein. Mmh. Et donc, on a joué la blague de je suis coincé sur son sein. Et à la fin du match, elle est venue me voir en disant, j'espère que ça t'a pas. Et elle est venue d'elle-même. Et j'ai trouvé ça hyper gentil. Et j'ai eu un autre spectacle après où une improvisatrice m'est venue derrière, m'a grippé les fesses. Mmh. Mais à un point, c'est-à-dire que je suis très grand, mais j'ai des très petites fesses, et il faut le noter. Du coup,
on aura tous les détails de tout le monde.
MDR.
Et elle a été un peu trop ambitieuse. Et il faut se dire que ses doigts sont trouvés un petit peu proches de l'arrêt, quand même. Vraiment, elle m'a grippé les fesses, mais
on
bien.
On va vraiment dans tous les détails de la construction.
Ah, mais mon pauvre,
hein.
T'as dû te sentir tellement mal.
Ouais, bah, j'étais pas bien du tout. Là là. Et mais pareil, après, et sachant qu'il y a eu une autre impro où, juste avant, où moi, mon défi, c'était je devais jouer comme si elle n'existait pas. Et je passais, c'est à peu près ton physique, je passais mon temps à être devant elle. On ne la voyait pas. Et c'était hyper violent. Et donc, mi-temps, tous les deux, j'espère que ça a été. Elle fait, mais moi, je suis méga désolé, je m'en rendais pas compte, j'étais dans le truc et tout. Et donc, voilà, je les remercie toutes les deux. Si elles se reconnaissent dans les anecdotes, elles ont été, mais d'une gentillesse à venir tout de suite et tout. Et c'est vrai que sur le moment, moi, je fais genre chelou, mais je me suis pas tant posé de questions que ça. Et tout de suite, avant même que je m'en rende compte que ça allait pas, elles sont venues me dire bah voilà, j'espère que ça va, c'était pas comme ça, c'était dans le truc, j'espère que tout ça. Et donc j'ai trouvé ça super de leur part. Et voilà.
Mais c'est ça qui est super intéressant, pour moi qui est super important, c'est au départ c'est bizarre de parler de ces choses, parce que toi t'as honte, la personne elle sent bien qu'elle a fait quelque chose de pas terrible, donc elle a honte, donc elle va mal le prendre, elle est sur la défensive, et c'est difficile, alors que si on arrive à intégrer ce côté de on peut en parler, c'est normal, et on peut se planter, on fait de l'impro, et on a plein de choses bizarres dans la tête qui fait qu'on fait parfois des trucs bizarres. Ça devient, c'est pas très grave, c'est je suis désolée, j'ai fait ce truc là, c'était pourri. Ah ouais, c'était pourri, grave. Bon, bah voilà.
Bon, mais après, faut pas que ça soit une excuse à faire les choses.
Non, faut pas que ce soit une
dire.
Excuse, tu mais au moins, on apprend on apprend à en parler et à avoir cette conversation, et ça devient naturel. Quoi.
Mais même, enfin, je veux dire, moi j'ai dû être sexiste aussi, parfois sur scène, tu vois. Et je pense qu'il est important, c'est de le conscientiser pour ensuite, avec cette conscience là, se dire ok, est-ce que je peux faire quelque chose pour aller voir la personne, tu vois, concernée, pour lui dire
c'est un petit peu ma question là à venir, parce que c'est un sujet qui est très riche, très intéressant, et puis qui est très de l'air du temps, donc il y a beaucoup de choses encore à dire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais si vous aviez un conseil à donner à n'importe quelle personne qui nous écoute sur ce podcast, qui réécoutera le podcast, un conseil, vous êtes pas, il y a 1000 conseils sûrement à donner, mais le premier comme ça qui vous viendrait, si cette personne est face à une situation qu'on a cité précédemment.
Qu'elle a subi ou qu'elle a assisté, elle a été témoin.
L'un ou l'autre, en fait, parce que vous pouvez choisir de donner un conseil à quelqu'un qui a été témoin, quelqu'un qui a fait, quelqu'un qui a reçu. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire là, en conseil comme ça, eux?
Alors, selon la situation, on va pas forcément arrêter le spectacle, mais après la scène, après le spectacle, à la fin du cours, ne pas avoir peur d'initier une conversation. De dire, notamment si vous êtes quelqu'un d'extérieur, vous êtes dit, ça c'était peut-être bizarre. Encore plus si, par exemple, vous êtes un prof ou vous êtes quelqu'un qui met en scène le spectacle, qui a une position d'autorité, de dire, j'ai vu cette telle chose, tout peut arriver en impro, mais est-ce que toi, ça t'a posé un souci? Si ça t'a posé un souci, il n'y a pas de problème. Enfin, essayer de créer un espace sans forcément le jugement, mais que la personne qui a subi. Et pas peur de dire si ça l'a subi, et qu'on puisse faire passer au message la personne qui a fait que là c'était peut-être pas terrible, mais c'est super difficile. Moi je sais que je le fais dans mes cours, et à chaque fois que je demande au départ, bon, est-ce que vous avez des... ah non, moi j'ai aucune limite,
oui,
ah non, tout va bien,
ça,
ah non, machin. Et parce qu'on n'a pas encore appris à se donner le droit, et puis nous on n'a pas appris encore en improvisateur à se donner le droit de
stopper quand on voulait pas,
de stopper et de dire, bah, ça me va pas, par exemple.
Donc il y a encore un petit travail à faire là.
Voilà.
Ok, merci Sophie. Et toi, Valentine ?
Moi, je suis complètement d'accord avec Sophie. Le fait même d'initier un dialogue, quoi. Et autre chose comme conseil, peut-être pour les groupes ou les compagnies ou les festivals proposés, ou même les castings. Moi, j'ai fait un casting où je me suis retrouvée face à une situation très gênante ou avec du racisme, du sexisme, etc. Peut-être annoncer en début de casting ou en début de spectacle ou de festival, juste dire voilà ce que comment va se dérouler le casting, ce qu'on ne veut pas voir. Ce qu'on n'accepte pas.
Énoncer la charte.
En fait, c'est donner un cadre. Énoncer la charte, ouais, complètement. Donner un cadre. Et en fait, je pense que déjà, ça va venir désamorcer inconsciemment des comportements qui peuvent émerger sur scène. Donc pour moi, il y a ça, tu vois, énoncer une charte et tout. Que c'est un...
Je fais ça, moi, chacun de,
c'est
de
super.
Mes ateliers.
Un petit moment de peut-être une minute, tu vois, mais juste de dire, bon, voilà,
ça rappelle,
vous arrivez là,
les choses.
Et machin. Et du coup, peut-être qu'on évacue un peu plus ça.
T'as quelque chose, toi, Jeanne ?
Je pense que les filles ont bien illustré la problématique. Évidemment, sans surprise, j'ai suffisamment d'années d'improvisation pour avoir un tas vraiment de chantiers, d'anecdotes, malheureusement, de problématiques de ce genre. Donc je pense que c'est pas utile, mais je soutiens évidemment tout ce qui a été dit là et j'encourage encore plus les gens qui nous écoutent à s'ouvrir, à ne pas rester dans l'isolement, en fait, de ce genre de situation, parce que plus on attend, plus c'est difficile. Et là, je vous parle en tant que moi, pas juste en tant que personne féministe. Donc voilà,
moi,
n'attendez pas pour parler.
Je vais rajouter en tant qu'homme blanc cisgenre, qui sommes quand même les principaux responsables de ce genre de choses, si je pouvais donner un conseil aux personnes comme moi, c'est difficile, je le vois, là rien que pour préparer l'émission, je dois penser à ne pas mettre d'adjectif sur le physique. Quand on va pas recevoir les magnifiques, voilà, c'est des trucs qui, non mais c'est des trucs qui sont implantés et je me force.
Si tu dis est très intelligente, ça passe.
Mais en fait voilà, c'est tout bête, mais depuis qu'on m'a annoncé ça et que je me rends compte que on le fait, et le talentueux, nana, et la très belle, et voilà, et ça arrive.
La
et
fameuse.
Donc voilà, je me force à pas le faire et tout ça, et ça arrive de se planter. Récemment, c'est tout bête, mais je présentais un plateau d'humoriste et il y avait une humoriste qui était noire et je dis et donc c'est moi qui l'annonce et je fais attention pas sur la physique et nanana, elle vient de nanana, et je ne sais pas pourquoi à la fin j'ajoute et je dis et elle nous vient de loin et je dis ça et là et ça part et elle arrive derrière moi et fait
non mais je viens de Belleville hein,
non non mais ça, elle dit tu dis que je viens de loin parce qu'en fait elle venait de le pays où il y a eu un génocide d'où Corneille vient aussi
le Rwanda.
Elle venait du Rwanda, elle dit comment tu sais que je viens du Rwanda. Parce que tu sais que je suis originaire du Rwanda. Et je dis, mais parce que tu ressembles un peu à Corneille, ce qui est un peu vrai, et on fait des blagues dessus, tout ça. Mais tout de suite, fin du spectacle, j'ai ravalé tout ça, et j'espère que ça va, j'espère que tout va bien. Et donc voilà, si ce message peut passer, c'est vous avez le droit de vous planter, c'est pas grave, ravalez votre fierté, faites le premier pas. Et si vous faites pas le premier pas, ravalez quand même votre fierté, votre ego, et acceptez que quelqu'un ait pu se sentir blessé, et voilà, expliquer ce qui s'est passé, et
mais
trouver un moyen de discuter.
Qu'est-ce qu'elle
quoi.
T'a dit elle t'a dit
elle l'a très très bien pris, il n'y a eu aucun souci. Okay. En fait, surtout, elle m'a dit, j'avoue, quand tu me l'as dit, ça m'a fait bizarre. Mais comme après, on a fait des blagues sur Corneille, sur
mais quand
tout
même,
ça,
du coup, c'était
ça.
Pas plus mal que tu inities la conversation.
Mais en effet, et elle m'a dit, merci beaucoup d'être venu, il n'y a aucun souci, mais je suis super content que tu sois venu. Donc j'incite, moi, mon conseil, c'est allez-y, rentrez votre ego et allez-y, acceptez que vous êtes trompé, c'est normal, le monde évolue et c'est normal qu'on ait des choses en nous qui sont pas bien.
Bien sûr, mais on est là pour travailler dessus, hein. On n'est pas tous parfaits, donc venez se re-questionner nos pratiques.
C'était un moment très très intéressant, je vous remercie de ce petit moment politique, hein, engagé, j'étais ravie de le partager avec vous. C'est le moment maintenant du « Je n'ai jamais » de l'impro. Donc, je n'ai jamais de l'impro. Les filles, on est allé un peu loin dans nos je n'ai jamais. Est-ce que je n'ai jamais frappé quelqu'un parce que j'en avais envie sur scène ?
Alors, j'explique parce que voilà. Tu lances une phrase sans donner les règles du jeu. On est sur une version du je n'ai jamais comme ce jeu d'alcool.
Voilà.
Le but, c'est de dire. Alors, on va pas vous demander de vous pincher
la truffe.
Ouais,
parce que moi, j'avais pas compris.
On va pas vous forcer à vous pincher la truffe.
Non,
c'est
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Si jamais, elle va vous dire une phrase qui commence par donc je n'ai jamais. Si jamais vous l'avez fait, vous dites au micro là, je bois.
Voilà.
Parce qu'en effet, je l'ai déjà fait.
Après, on a le droit de boire.
Voilà.
Si on a
envie,
vous êtes libre, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Voilà.
Mais il est très agréable.
Il est sympa pour l'esprit.
Et au bout de deux triples carmélites, on est déjà un petit peu à côté de ces choses.
Donc, ici, qui n'a jamais frappé quelqu'un parce qu'il en avait envie sur scène ?
Donc, j'ai déjà en bois, c'est ça ?
Voilà.
Tu dis je bois. Ouais.
Je bois. Si t'as déjà frappé quelqu'un,
moi, je
juste
bois.
Parce que t'avais envie.
Ouais.
Moi, je bois.
Attends, est-ce que j'ai frappé quelqu'un ?
Alors, moi, je bois, mais pour des circonstances atténuantes, c'est que je joue souvent avec mon petit frère. Et mon petit frère a un arrière de crâne, une nuque là. Lucas, ouais, là. En fait, je lui ai mis beaucoup de gilou étant jeune. Donc, une gilou, c'est une petite claque arrondie derrière la tête. Et là, l'arrière du crâne un peu plat. Et c'est vrai que ça invite.
Moi, je sais pas.
Je prends un malin plaisir.
Mais c'est pas bien. Faut pas.
C'est pas bien.
Moi, je sais pas si je dois boire parce que je m'en souviens pas, mais j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne derrière et qui dit ouais. Mais si tu te souviens pas, ce jour-là, tu m'as frappé.
C'était horrible. Ah, moi, j'ai fait même, je pense, plusieurs fois. Frapper, mais frapper gentiment, mais frapoter un peu genre dans un personnage, tu vois, qui dit « Mais non, mais va-t'en d'ici !» Avec, tu tapes un peu l'épaule, tu tapes l'arrière du dos.
Tu tapes un peu plus fort que prévu.
Puis tu dis « Oh, ça me fait du bien !» C'est pas bien.
Moi,
c'est
vu
pas
mon
bien,
gabarit, je tape pas.
Moi, je crois pas, mais il y aura peut-être quelqu'un qui viendra me contredire.
Ah,
dans Paris
j'ai un
match.
Appel, oui. Effectivement, oui, d'accord, je vais le dire.
moi, je crois que j'ai déjà, ouais, et je regrette.
Alors, à l'inverse, je n'ai jamais roulé une pelle. Enfin, qui n'a jamais ici roulé une pelle alors qu'il en avait quand même un peu envie, donc il était content.
Ah bah, moi je bois.
Sophie, elle aime bien, ouais.
Moi, je n'ai jamais roulé de pelle en impro et je refuse. Je dis, quand il y a des trucs de début, je dis, vous ne venez pas m'embrasser sur scène. Je fais des faux bisous, mais c'est ce que justement quand
genre,
on disait
genre, tu mets ton pouce?
Non,
où tu mets tes cheveux.
Non, la commissure des lèvres, là déjà j'embrasse là. Et en fait, je mets la tête devant. Non,
non, il a une tête assez présente.
En fait, tu mets la tête. Tout est dans le mouvement. C'est-à-dire, tu fais nuque, hanche,
tu
tombes. Voilà,
tu zoukes.
Quand tu mets de l'autre côté et que tu avais très envie d'embrasser la personne,
t'es dégoûté.
Mais en fait, souvent, je le dis au départ, par exemple, on a fait les auditions de Pop Fiction. Voilà, et donc ils font catégorie film romantique. Et j'ai dit à l'audition, moi, j'embrasse. Pas, je vous préviens, je fais pas de bisous ni tout ça. Moi j'ai deux trucs, je dis pas de bisous et ne me touchez pas ni, ni le torse ni le sexe.
Mais ça c'est normal. Hein.
Mais vous pouvez me sauter dessus, vous pouvez mettre tout votre poids sur moi, il n'y a aucun souci.
Oui, mais en même temps tu fais 3 mètres, c'est une armoire. Hein.
Ah oui, mais oui, mais j'aime pas. Peut-être, c'est tentant un peu.
On peut, mais on touche pas mes tétons, j'aime pas.
Bon, moi je bois aussi, hein. Je pense que quand même dans ma carrière.
Moi j'ai déjà, mais c'était consenti quoi. Je sais
ah bah
que
oui,
la personne,
on en a pas. Alors évidemment,
on l'a pas. Mais la question c'est est-ce que t'en as profité?
Voilà,
est-ce
on
n'a
pas précisé, genre, mais évidemment. Sinon là, on retombe dans la conversation précédente.
Hein. C'était pas grosse pelle, mais c'était très beau baiser. Quoi.
Oui, voilà. Oui, tu
baisais de théâtre.
C'est ça le problème, c'est que maintenant on sait quoi. On sait qu'en fait il y a du théâtre, mais il y a pas que du théâtre quoi.
C'est pour ça que je fais pas moi. Comme ça, j'évite tout quiproquo.
Alors ici, qui n'a jamais.
Pardon, je voulais faire une blague, je voulais faire. Par contre, un petit wad.
C'est nul, c'est dégueulasse.
Je sais, mais ça me fait serrer. Je ne roule aucune pelle.
Je ne suis jamais allée aux toilettes discrètement pendant un show.
Pendant ?
Ouais.
Moi, je bois pas parce que je le fais pas discrètement.
Mais Sophie, elle boit. Mais Sophie, elle boit vraiment.
Ah non,
en plus,
et après,
hein,
elle dit que c'est moi qui chie avant. Quoi. Ouais,
non, mais
alors,
elle
chie pendant.
Et en plus, c'est horrible parce que c'était un spectacle tard le soir, genre à 22h30. Et j'avais. Enfin, je suis allée à un anniversaire avant et j'ai beaucoup bu. J'ai très très peu souvenir du spectacle, mais j'étais vraiment bourrée. Et donc, forcément, je suis allée plusieurs fois aux toilettes. Et je pense qu'ils sont venus me chercher pour me ramener sur scène.
Ah oui, donc tu peux reboire, parce qu'il y en a un, c'est « Je n'ai jamais joué bourré », et en fait, tu peux reboire direct. Quoi.
Avec ce que tu racontes, je viens d'avoir une anecdote. Vous voyez la catégorie en match où il y a 4 joueurs qui sortent, il y en a un qui fait une impro, l'autre garde, puis il doit la mimer à l'autre et tout ça.
Ah ouais,
j'étais le dernier, je dis « Je vais en profiter pour aller aux toilettes ». Et arrive aux toilettes, une petite envie de deuxième base vient.
De deuxième base.
Un caca, voilà. J'ai envie de faire
on
j'ai envie
dans
de caca.
Des métaphores,
c'est la métaphore du BTP toujours.
Oui.
Ou pas
non, c'est du baseball. Première base, deuxième base. Voilà. Et donc bon bah du coup je le dis, l'envie de me faire un petit c'est un
oui, on l'a compris.
C'est le vomi le troisième base. Bref. Et l'envie de me vient de me faire un petit caca et
vraiment,
à un moment donné
c'est j'ai dit,
parce que tu me coupes du coup je reprends. Du coup me vient l'envie de faire un petit caca.
Oui, mais il y a des petits caca qui sont sympas.
Ouais, mais c'est vraiment tu fais pipi, t'es assis, tu dis bon moi j'en profite. Hop, papa.
Vraiment on peut aller à l'étape d'après de cette année.
Et là, donc j'entends que ça rit, ça bouge, puis à un moment donné, Baptiste et on est venu me chercher aux toilettes, et du coup, je suis arrivé un
peu. C'est pas très professionnel, Baptiste d'Olivera.
C'est un match en province.
Non, mais on se sent vachement mieux après.
Non, c'est très bien les matchs en province.
Il méritait pas que je sois là.
Un match en province.
Ouais, c'est quoi ce dédain pour la province? Bon, je n'ai jamais abusé de ma notoriété.
J'ai aucune
notoriété.
Moi,
j'en ai pas.
Team sans notoriété.
Je pense pas. Non, mais en vrai,
enfin, bien sûr que si, vous avez de la notoriété.
Alors, oui, sur les non mais oui, on n'est pas là pour d'impro, mais j'ai pas de notoriété.
Non, en vrai, c'est quoi la notoriété? Enfin, moi, je suis pas un Pierre Ninet, quoi, une Pierrette Ninet, quoi.
Oui, d'accord. Bon, bon. Là, tu vises haut, hein. Tu vises le merveilleux. Alors,
après, peut-être que j'ai déjà utilisé mon statut de prof.
Par exemple,
pour voilà. séduire un peu, tu vois.
Donc toi, tu vois jamais.
T'es très clairement dans la conversation tout à
fait. Non, mais je me suis jamais dit, écoute, je suis ton prof, tu pourrais. Mais tu le vois que en tant que prof, tu vas attirer une sympathie. Et ça m'arrangeait bien de plus plaire parce que j'étais le prof.
Moi, j'avais l'impression de plus devoir prouver que de plaire. Bon, alors, c'est peut-être mes débuts de prof.
Ou ton positionnement féminin.
Peut-être. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui
en effet, oui, mes premiers cours, quand j'avais 21-22 ans, que je donnais cours à des gens qui avaient parfois le double de mon âge, j'étais obligé un peu de dire... represent.
Ok. Passons à la suivante. Je n'ai... Qui ici n'a jamais kiffé des applaudissements un peu trop longtemps?
Mais c'est trop kiffant, tu peux applaudir pendant une heure, c'est génial.
Bah moi j'aime pas ça par exemple.
Ah ouais, moi je... Ah puis les rappels, surtout ouais. pas quoi. Moi, on fait un rappel, ouais, non, on fait pas de rappel. Non mais c'est bon là, je vais au toilette.
Ah mais faut recevoir. Je me souviens que quand nous faisions partie d'une certaine compagnie, on était un peu à l'opposé du groupe. Ouais, il y avait pas le même plaisir à accueillir.
Moi je suis entre vous, c'est-à-dire que la première salle d'applaudissements, je suis pour, et tant que le public elle dure, tant mieux. Ouais. Par contre, pas de rappel, c'est fini. C'est fini.
Ouais.
Moi, j'ai toujours un peu de mal avec le rappel qui est 0,5 secondes. T'as même pas eu le temps de mettre derrière le truc. On y retourne déjà. Non, mais ça se trouve, ils ont envie d'arrêter, mais ils sont trop polis.
Ceux qui remontent sur scène alors que le public n'applaudit plus pour relancer des applaudissements. Ceux-là, ils sont terribles.
Si, Valentine, elle est comme ça.
En fait, j'imagine la situation, je trouve ça très drôle.
Ah, mais moi, c'est arrivé.
Imagine, tu te chauffes tout seul et tu penses que ça va réapplaudir.
Attends, moi, j'ai vécu ça dans certains.
J'ai déjà vu arriver, moi. Je ne suis pas allé sur scène.
Bien sûr, je l'ai vécu, mais un enfer.
Allez. Et
mais
en fait, personne n'applaudit.
Mais attends, pire que ça, moi.
Surtout, les gens sont levés pour la moitié, ils sont partis pour la moitié.
Oh, bien sûr.
Moi, je peux le dire, je balance l'anecdote. Merde. Je m'en fous. Paris Barbastella vive. Le metteur en scène, auteur, jouait avec moi. C'est une pièce dans laquelle je jouais.
Ouais.
Ok, donc rideau et tout. Il force, il dit à la Toki, il dit rallume le rideau et tout. Il a, ils sont deux, je monte pas sur scène. Le public n'applaudit pas.
Mais oui.
Il est là, lui, il applaudit dans ses mains, il relance des applaudissements. Et il me dit, viens sur scène. Et je dis, je monte pas, les gens, ils sont partis. Donc c'est à moitié embrouillé sur scène. Les gens sont en train de partir, je monte pas. Ils vont pas t'applaudir pendant 8 ans.
C'est horrible pour le comédien ou la comédienne que
tu es. Puis t'es pas un mendiant, tu vas pas mordre les applaudissements. Et soit ils viennent et c'est spontané et t'as fait vraiment du bon taf et c'est cool et vous avez kiffé.
Enfin, et puis faut pas prendre mal aussi que les gens.
Bah ouais,
c'est pas 5 rappels.
Oui, c'est ça.
Ils ont peut-être kiffé, mais c'est juste que l'énergie du truc a fait qu'ils ont.
En fait, ouais, c'est ça. C'est une question d'énergie parce qu'il y a un moment, le rideau est fermé, les gens continuent d'applaudir. Bon, bah, à un moment donné, le rideau se relève, tu dis
oui,
bon, bah, t'es là.
Là, parce qu'il y a un vrai désir de partager ce moment plus longtemps.
Et puis, le nombre de fois où moi je suis allée au théâtre, dans des grands théâtres, et où j'ai pas envie d'applaudir 50 ans, j'ai pas surkiffé le truc, et il y a 12 rappels. Oui. Et puis ma mère, elle a dit non, mais applaudis quand même,
oui,
t'es mal poli.
Il y a quelque chose de l'ordre de la
vitesse. On va louper le métro, là.
Pareil, moi, quand j'ai plus. Moi, vraiment, il y a des fois, à la fin d'un spectacle, avec un pote, on a un délire comme ça, on dit ça mérite 2. Fin du spectacle, je fais. Et j'arrête. Mais voilà. Mais en fait, quand j'ai plus envie d'applaudir,
marrant,
et
les
que...
comédiens sont toujours les plus difficiles. Hein,
non mais quand j'applaudis vraiment, mais à un moment
de. Mais c'est horrible.
Non mais quand le spectacle est vraiment mauvais. Mais des fois, t'applaudis, c'est fini. Les d'autres gens font un rappel et je dis non, je vais pas applaudir avec.
Mais
eux,
moi, je comprends. J'ai des bras faibles, donc au bout d'un moment, je suis fatiguée.
Moi, je suis fatiguée.
Moi, j'ai
d'accord avec ce que dit Jeanne et Sophie, c'est qu'il y a une espèce de convenance sociale aussi de.
Oui, c'est vrai.
On est au théâtre, dans le théâtre. Et puis ça dépend dans quel théâtre tu vas. Et du coup, quand t'es à la Comédie Française. Ou alors que t'es au théâtre des Bouffes du Nord, bah, il faut applaudir parce que c'est des grands metteurs en scène. Et du coup, en fait, parfois il y a des pièces, enfin en tout cas moi, pendant que je trouvais pas bonnes, et il y en a extraordinaires, et les pas bonnes, ouais, parce que tout le monde applaudit, il y a une espèce d'effet de groupe aussi, tu vois, où tu dis, bon, bah, attends, je vais quand même applaudir. Attends, les gens se lèvent là, tout le monde se lève là, est-ce que je me lève pas?
Ouais, ça c'est un peu difficile. Non, mais c'est pareil, le poids social, hein, le poids du groupe.
Drôle par contre quand ils sont 10 à se lever et que les autres font non.
Non,
au premier rang, il y en a 10 qui sont debout et qui applaudissent à fond et les autres font.
I don't want to stand up.
Pas plus que ça.
Je vis vraiment mal pour les comédiens dans ces cas-là. Moi, je suis vraiment en empathie.
Ouais.
Mais je tiens à préciser, donc je ne vais pas parler pour Sophie, mais pour moi, que c'est pas parce que j'aime pas les applaudissements que je ne les apprécie pas. C'est-à-dire que je reçois le message du public, mais pour moi, il a été donné et son temps est beaucoup plus court que ce que nous on leur offre. Si on leur fait une heure de spectacle, pour moi, vraiment 3 minutes, 4 minutes maximum d'applaudissements, c'est bien. Vous avez fait votre taf, vous pouvez rentrer chez vous en fait. Et quand il y a trop de temps comme ça d'applaudissements, j'ai vraiment l'impression qu'on leur demande de taffer plus. plus que ce qu'on a donné. Voilà, ça me crée ça. Après, surtout, je dis pas qu'il n'y a pas des soirées exceptionnelles, mais...
Ouais, surtout dans le, enfin, dans le monde du spectacle d'impro, où normalement, il y a une interaction parlée après les applaudissements. Moi, c'est vrai que ça me gêne vis-à-vis du public de me dire, bah, tiens, je vais leur parler quand ils auront fait un rappel.
Ouais.
Parce que ça veut dire que je t'oblige à applaudir pendant une minute 30, donc j'ai tendance à parler avant, genre vous applaudissez, ok, vous êtes content, et là, je vous permets de poser, et vous rapplaudissez une fois,
vous êtes libre de partir.
Et vous êtes libre de partir, je vous oblige pas à me faire un rappel pour avoir un merci, mettez une critique sur Billet Réduc.
Et là, j'ai l'impression qu'on en revient à la question du consentement. Est-ce que le public est d'accord
et
du plaisir, en fait. Est-ce que le public, il applaudit parce qu'il consent et qu'il a pris plaisir, ou est-ce qu'il applaudit parce qu'il se sent forcé, parce qu'il y a un poids de groupe social, comme tu disais. Donc oui, t'apprécies moins des applaudissements. Si ça dure 10 minutes, ça devient chelou quand même, les applaudissements.
Quand ils sont 4 dans la salle, tu sais, déjà, t'es content qu'ils soient là, tu vas pas.
Moi, si c'est fait avec bon cœur, je suis contente. Bon, après, si ça dure trop longtemps.
Mais je pense vraiment que c'est une question de personnalité. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question. C'est vraiment juste un... Alors, je vais vous poser le dernier « je n'ai jamais » parce que je le trouve assez rigolo. Qui ici n'a jamais été trop sapé pour un show ?
Ah bah oui.
Ça y va, la goulotte.
Parce qu'il y a quand même eu une mode. Il y a eu une mode là. Je me permets ce petit retour sur une mode qui a été. On se sape à mort pour les spectacles d'impro, alors qu'avant c'était en jogging, pour le match entre autres, jogging basket, haut de hockey. Et tout d'un coup, tout le monde a dit non, mais maintenant il faut la talon, les bijoux, le maquillage pump it up. Les nanas, je me souviens de coiffures de malades avec des plumes, des machins, des trucs. Okay, et j'en ai fait partie aussi. Mais du coup. Moi, j'ai eu la sensation mille fois d'être trop sapée, quoi.
Et moi, j'ai passé des années merveilleuses aux États-Unis, à jouer aux États-Unis. Mais là-bas, ils jouent en cargo short et en tongs. Et toi, tu viens quand même en mode, je suis quand même respectueux du public. Je vais mettre un pantalon long et une chemise.
Et t'étais trop sapée déjà, quoi.
Et t'es trop sapée.
Ouais, bon. Tu ressembles à la serveuse, quoi, en fait.
Voilà. Moi, ah non, la bière, c'est là-bas. Ouais.
À Montréal, je me faisais engueuler par mon équipe de match. Bah, après, c'est typique du match. Du coup, il y a des codes vestimentaires.
Ah oui.
Mais parce que j'étais en jean, enfin voilà, et qu'en fait, c'est genre jogging. Mais je pense que c'est différent, du coup.
Ouais, là, c'est carrément. Ouais. Ils sont.
Moi,
un
j'ai
peu
un plaisir à me sursaper quand je suis dans, par exemple, le staff. Être en maître de cérémonie ou être en coach.
Ah oui, mais ça, c'est sympa.
Oui, mais bah, voilà.
Mais
je
c'est
dis,
vrai c'est, que ça fait sursaper.
C'est mon plaisir d'arriver, d'avoir un vrai perso. Déjà, quand t'arrives, ouais, et arriver étant... J'ai un spectacle d'école qui a un match un petit peu où, en fait, il y a deux arbitres, donc du coup, qui sont plus un juré, qui sont là. Et donc, j'étais venu hyper sapé en professionnel de théâtre public, mais du théâtre Bolshoï, tout ça, avec un accent russe. Mmh. Et j'étais sursapé et je m'amusais à faire ça.
Ça, c'est sympa.
Mais c'est pour les persos.
Mais je parle plus
de
moments
spectacle.
Où moi, je me suis retrouvée, et Dieu sait que j'ai défendu quand même ce truc-là, parce que c'était aussi un moyen d'être féministe, mais de jouer en talons, en collant et en jupe. Mais le nombre de fois où, en fait, mon talon ripait sur mon collant, qui se filait, et je me disais, putain, voilà, il faut que je fasse encore trois quarts d'heure comme ça. Mmh. Et où je me disais, en fait, je suis trop sapée, mais en même temps, je défends un truc qui est on a le droit d'être féminine si on veut, et on n'a pas obligé de ressembler à un mec pour faire un spectacle. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est cool parce que du coup, il y a moins besoin de ça maintenant. Au contraire, il y a quelque chose qui s'est apaisé sur tout ça. Mais à cette époque-là, je me souviens, ouais. Et d'ailleurs, j'en avais fait un point d'honneur pendant un moment, même les matchs, j'avais réussi à venir avec des talons larges, mais en talons, quoi. Mmh. Et parce que je défendais un truc, quoi. Mmh. Mais là, je me sentais aussi trop sapée, quoi. Les gens disaient, sérieuse, tu vas faire ton match en talons.
Ouais, en fait, il faut que ça ce soit un choix. En
oui,
réalité,
bien sûr. Voilà.
Bon, après, effectivement, il y a quand même. Enfin, pour moi, je pense que quand tu fais un spectacle. Moi, on m'a fait déjà reprocher d'être grave mal sapée.
Genre, ah merde, à l'inverse.
C'était un de mes ex que je salue, peut-être qu'il se reconnaîtra, mais qui me dit, non mais Val, franchement, attends, mais t'es sérieuse là, avec ton gilet de serpillière et tout, je fais t'es sérieux. Et moi, j'avais pas capté. Et peut-être qu'il y a aussi ce truc, bah ouais, t'es en représentation devant des spectateurs qui ont payé une place. Ça veut pas dire sursape-toi, mais c'est genre
peut-être pas ton gilet doudou, quoi.
Bah, non.
Je pense que c'est vraiment, on parlait tout à l'heure du match versus certains spectacles. Et le père de Baptiste qui aimait beaucoup le match, le côté de quelle expérience tu donnes au public. Est-ce que tu leur donnes un spectacle populaire où ils vont être super à l'aise, et dans ce cas-là, bah, c'est cool d'être habillé vachement à l'aise, ou est-ce que ils sont quand même dans un théâtre parisien où ils ont payé leur place à un certain prix sur une jolie scène, et dans ce cas-là, bah, tu t'habilles pour aller avec ça, ou pour aller avec le spectacle que tu fais.
Oui, oui.
Ce que tu dis, ça me fait penser, en rebond avec ce que disait Jeanne, Cette fois, c'est ma mère. Quand elle a vu jouer Antonia de Rodinger, elle a dit, je n'écoutais pas ce qu'elle faisait, je passais mon temps à me dire comment elle fait pour jouer en talon.
Alors que ta mère est tout le temps sur des talons de 20 cm.
Mais c'est ça, mais tout le temps, elle passe son temps là-dessus. Mais son avis en regardant, c'était... Je n'ai pas trop fait gaffe parce que je me demandais comment elle faisait pour jouer sur des talons. Et ça lui a squeezé toute la performance qu'elle avait en face à cause de ça.
Jamais ce problème parce que je ne sais pas marcher avec des talons.
Ça.
Moi, je ne pourrais jamais jouer en talons. J'avoue que...
Effectivement, c'est un des détails, mais ça peut être aussi un gros décolleté, un machin, un truc. Mais comme je disais,
problème, non plus,
trop maquillée. Enfin, moi, j'ai vu quand même 2-3 improvisatrices, même
un sac
improvisateurs
de sable,
qui se mettaient du maquillage parce que c'était la scène, trop maquillée.
Mais en fait, j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, c'est ok, tu joues comme ce que tu veux.
Enfin, c'est ça.
Si toi, tu as envie de mettre des talons et que tu kiffes, mais mêlée. Si toi, si Sophie ou moi, enfin, moi, clairement, j'arrive pas à marcher avec des talons, je ressemble à rien, je l'aimais pas. En fait, c'est l'idée, c'est juste de se dire.
Et pareil pour le maquillage, quand je dis trop maquillée, c'est-à-dire que la situation en elle-même n'engendrait pas une nécessité. Ah, mais par contre, si t'es bien, si t'es mieux comme ça, si ça te permet de mieux jouer, mais bingo coco. Ouais. Hein. Bingo coco, retient cette expression ?
Bingo coco.
C'est validé. Voilà.
Merci de votre soutien.
Il y a des mecs qui se mettent du noir là en dessous des yeux, tu sais.
Qui coule.
Et moi, au départ, j'avais un peu ce truc, mais pourquoi tu fais ça ? Et en fait, ils kiffent quoi. Parce qu'ils disent, ouais, mais ça ajoute de l'intensité. Je suis en mode, ok.
Et puis ils rentrent dans leur rôle
dans
de comédien. Bon, par contre, je le redis, le noir sous l'œil, ça coule. Hein, voilà, pour que tout le monde le sache.
C'est
très rare.
Tu fais une scène dramatique,
c'est
foutu, tu ressembles à un panda.
C'est ça. Eh bien, merci les filles d'avoir joué à ce petit jeu du je n'ai jamais. Il y a eu quand même beaucoup de j'ai déjà, mais c'est bien.
C'est parce qu'on avait soif.
Ouais, on avait soif. du coup, je voulais savoir avec vous quelles étaient vos petites recommandations.
Oui, parce que comme on approche tranquillement de la fin d'émission, on a pour habitude de recommander des choses culturelles sur n'importe quel média. Donc si vous avez quelque chose que vous avez envie de partager aux gens qui nous écoutent, c'est le moment. El es momento.
Je peux commencer comme ça, ça vous laisse un peu de temps. Nous, on a fini hier une série, un manga qu'on
un
trouve.
Un animé.
Un animé, pardon, ouais, voilà. Mais qui existe en manga, qui s'appelle Assassination Classroom. Et qui est en 2 séries disponibles sur Netflix.
2 saisons.
2 saisons. Oui, pourquoi j'ai dit série ?
Je sais pas.
Moi, je suis nulle. Mais vraiment, c'est bien ce que je conseille. Hein. Enfin, voilà. donc, 2 saisons. Mais Baptiste en parle mieux que moi, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cet univers-là. Globalement, c'est l'histoire d'un être extraordinaire qui est professeur d'une classe à laquelle il va enseigner l'art de l'assassinat, et notamment de lui-même. Voilà.
C'est-à-dire que c'est un monstre qui... C'est un monstre qui est, pour le coup, assez joli. Il est jaune, c'est un gros
smiley. Ouais.
Et en fait, il dit, dans un an, je vais détruire la Terre. Et vous, classe d'élèves, vous avez un an pour me tuer et sauver la Terre.
Sauf que cette
celui
classe...
qui le fait gagne 30 milliards de yens.
Milliards de quoi ? Ah, de yens.
Ouais. Sauf que cette classe, c'est la classe des cancres. Et c'est formidable, puisqu'on va suivre pendant ces 2 saisons l'émancipation et l'émergence de personnalités extraordinaires au sein de cette classe. Et un lien, surtout, et beaucoup, beaucoup aussi de notions de pédagogie extraordinaire, et c'est pour ça que je conseille cette série. J'ai trouvé que le lien entre professeur et élève, et puis tout ce qui était dit aussi, notamment sur les genres, plein de petites choses comme ça qui sont évoquées dans cet animé, sont très bien faites. Donc voilà, je vous le conseille. Il faut aimer un petit peu quand même l'animé japonais, mais si vous rentrez dans cette catégorie, allez regarder cette série.
Voilà. Trop bien.
Cool. Je peux, j'y vais.
Mais vas-y.
Vas-y, j'y vais.
On retrouve la politesse du début,
s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Alors, forcément, en ce moment, on regarde beaucoup de choses, parce qu'on a un peu que ça à faire.
Parce que tu es mère de famille, c'est pour ça que tu nous dis
non,
ça ?
Non, non, c'est parce qu'on nous a mis d'une pandémie et que.
Alors, et qu'il n'y a rien à faire après 18h.
Voilà, alors moi, c'est après 20h30, une fois qu'on l'a couché, mais voilà, c'est ça. Ce que j'ai vu récemment, qui était vraiment très, très bien, enfin, qui m'a beaucoup parlé, il y a une série qui est sur le canal. Et je crois que c'est par HBO, qui s'appelle Patria.
Oui.
C'est sur l'État, donc ça se passe au Pays Basque espagnol. Et en termes de cœur de personnage, et étudier un peu le trauma et comment est-ce qu'on vit ce genre de situation extrêmement compliquée au fur et à mesure des ans. Et en gros, les excuses que les gens se trouvent et comment ils vivent un peu toute cette situation où c'est leur voisin qui est, machin.
Ouais.
C'était vraiment... Enfin, moi, j'étais déjà assise, mais si j'avais été debout, ça m'aurait encore plus assise. Ouais. Non, mais vraiment, ça m'a vraiment pris.
Très bien fait, quoi. Bien
très,
écrit.
Très bien fait.
La Bible est riche,
ouais,
quoi.
Vraiment, vraiment excellente série. Et en film sur Netflix, alors je l'avais vu il y a longtemps, mais qui est très sympa, mais surtout, j'adore beaucoup... la réalisatrice, il y a un film qui s'appelle Booksmart, qui est, parce qu'on parlait de choses féministes, qui est sur deux lycéennes qui se soutiennent et qui sont vraiment... c'est un film très positif et très sympa. Donc le film est très bien et il est réalisé par Olivia Wilde, qui est une actrice hollywoodienne qui est vraiment géniale. Et on a mentionné un peu au début ce côté de... en France, il faut souffrir et parfois ça engendre des côtés un peu où les gens sont un peu abusifs parce qu'ils pensent qu'il faut vraiment se dire les choses et être très dur. Et elle travaille sur un nouveau film. J'ai vu un article il n'y a pas très longtemps où elle a dégagé un acteur connu dont j'ai perdu le nom parce que c'était un connard sur le set. Un mec qui était en mode méthode acting à hurler sur les gens. Et elle avait expliqué à quel point pour elle, on n'est pas obligé de. Enfin, on n'a pas du tout à être des connards pour faire de l'art.
Pour obtenir ce qu'on veut.
Pour obtenir ce qu'on veut et faire de l'art qui est bien. Et du coup, je dirais, le film est très sympa. Donc, allez voir Booksmart parce qu'il est fait par des gens aussi féministes.
Qu'on retrouve sur Netflix.
C'est sur Netflix, je crois qu'il est sorti.
Merci Sophie. Valentine, t'as trouvé ta reco ?
Oui, j'étais en train de noter celle de Sophie. De toute façon, il y aura le podcast pour écouter. Oui, moi en ce moment, du coup, j'écoute beaucoup de podcasts dans les transports, chez moi et tout. Et il y a un podcast que j'aime beaucoup.
Ça s'appelle le Catherine, c'est...
Non, ça s'appelle le BTP la grue. Le plâtre.
C'est un haïku japonais, ça, le BTP la grue.
C'est ça.
Le roi Merlin, faire les choses chez vous.
Alors, c'est super parce qu'on a des tutos de 2 heures pour t'expliquer comment tu manges une. Non, l'enfer. Enfin, l'enfer, quoique, il y a peut-être des personnes qui aiment avoir des tutos.
Il y a des gens qui aiment beaucoup.
Oui, c'est vrai. Sophie a monté elle-même ses fenêtres.
C'est
je tiens à le dire dans ce podcast.
Elle a dit au départ.
Voilà, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde le sait.
Je suis très fière. Ça a été mon projet du confinement.
Vous n'avez pas menti.
Et c'est très bien fait. Donc, tu écoutes des podcasts.
J'écoute un podcast en particulier qui est un podcast de Louis Média. Je ne sais pas si vous connaissez, qui en font pas mal, et qui est le podcast Émotions. Et moi, j'adore tout ce qui est gestion des émotions, questionner des émotions. Et j'ai écouté récemment un podcast de Louis Média sur le coup de foudre.
Ah.
Et en fait, c'est en 3 épisodes et ça explique, ça analyse en tout cas, comment ce sentiment de coup de foudre émerge en nous. Et donc, il y a à la fois des sociologues qui explique que finalement le coup de foudre il est plus répandu dans notre classe sociale parce que effectivement on a des références communes et tout. Bon, je vais pas spoiler. Donc il y a une analyse à la fois sociologique, il y a une analyse
chimique, scientifique,
complètement neuroscientifique, si je dis pas de bêtises, où on voit les manifestations dans le cerveau, quelles sont les zones sollicitées dans le cerveau pendant ce fameux
coup de foudre.
Et ce n'est
pas cette zone là à laquelle vous pensez.
Exactement. Baptiste, il est tranquille.
J'écoute, je suis à fond.
Mais Louis Média, c'est vraiment un collectif de podcasts. C'est deux nanas qui ont monté ça, qui sont super. Et donc, je me permets de relancer en disant que moi, je me suis plongée dans Ou peut-être une nuit, qui est un de leurs podcasts sur les abus sexuels. Et qui est très, très, très bien fait. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, celui-là en particulier est très bien fait. Donc, je plus sois. Comme on dit.
Donc écoutez des podcasts, voilà, surtout le catering.
Mais c'est déjà fait apparemment. Voilà.
Et toi Baptiste ?
Alors moi j'ai rien de précis à recommander. En y repensant en fait là, j'ai commencé à revoir la nouvelle saison de Brooklyn Nine-Nine et ça m'a fait penser. Déjà c'est très drôle Brooklyn Nine-Nine de regarder, mais surtout ça m'a fait penser à cette série qui s'appelle Angie Tribeca, qui est la. Si vous êtes improvisateur et que vous voulez apprendre à faire des parodies de séries policières. C'est la série qu'il faut regarder. C'est Steve Carell qui produit ça. Et
c'est avec Rashida Jones, non ? Celle qui est dans... comment ça s'appelle ? Parks and Recs.
Exactement. Voilà. Et c'est à mourir de rire. C'est tous les clichés des séries de flics. Et c'est absurde. Voilà, c'est ça. C'est drôle et c'est absurde. C'est une flic... Le premier épisode s'ouvre sur elle qui s'entraîne en se réveillant, elle fait sa morning routine et elle défonce son appartement, c'est-à-dire qu'en faisant des pompes et des tractions, elle défonce le truc, elle tire sur ses meubles, l'appart est défoncé et elle sort de chez elle et il y a une ligne entière d'artisans qui rentrent chez elle pour retaper son appart quand elle repart.
Parce qu'ils ont l'habitude.
Voilà, et donc c'est que des trucs comme ça, il y a un flic, c'est un chien, il a son badge et il boit son café le matin, quoi, truc. C'est absurde possible et c'est tous les clichés, donc si vous voulez vous amuser... Angie Tribeca, donc Angie comme un ange, A-N-G-I-E, et Tribeca, T-R-I-B-E-2-C-A. Et voilà, donc c'est les parodies des séries policières, c'est très très drôle. Donc si vous aimez Brooklyn Nine-Nine, je vous conseille ce petit truc de niche qui n'est pas très connu, mais c'est bien. Voilà.
Merci pour ces recos. Avant de donner, de vous poser la dernière question, je vais donner les actus, si tant est que nous puissions en avoir, de nos deux invités du jour. Donc Valentine Nogalo, on peut évidemment donc te retrouver dans ce festival Val Wonder Impro dont on a parlé, qui normalement a lieu en mars. On croise les doigts pour vous. Et tu es également dans une, en tout cas, tu travailles dans la mise en œuvre d'une pièce de théâtre québécoise qui s'appelle Shakespeare.
Oui.
Voilà, avec l'accent, je vais pas la tenter. Qui est à la fois écrite et improvisée, mais t'es aussi dans énormément de spectacles. Je vais donner des noms à la liste parce que sinon ça serait trop long. Tu t'avais prévu d'être dans l'improvisor, le spectacle impro au Théâtre de Nel, Théâtral Suspect, et tu as un duo d'impro, Le Cadeau. Voilà. Ouais. Pour Sophie Brossard qui nous accompagne aujourd'hui, tu as monté, créé, développé la compagnie Plusieurs Mots Productions qui normalement a deux spectacles en cours. Le premier, Coupable, qui est un spectacle à trois comédiens, comédiennes, et celui Madame Fait Salon, où vous êtes carrément six.
Voilà, six femmes.
Six femmes, donc pour Madame Fait Salon. On espère que vos projets vont reprendre très vite. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. La dernière question de ce podcast. On a bien parlé, on a bien bu, on a bien ri. Imaginons que nous sommes dans un monde normal. On a éteint les lumières et maintenant, on va où? On fait quoi?
En boîte de nuit.
Ah ouais, dance floor.
Ah mais direct. Avec
quel genre de boîte de nuit?
Avec un sol lumineux.
Ah ouais, à l'ancienne.
Disco.
Non mais ouais, puis les trucs, tu sais, où ils te mettent des genre soirées années 90.
Voilà, des vieux titres.
Ah ouais, ouais.
Tu vas te déhancher.
Ouais, on va en boîte.
Moi, je vais direct en boîte là.
Est-ce qu'on se sursape pour aller en boîte?
Ouais.
On se déguise. On s'habille années 90 avec des grosses boucles d'oreilles, des paillettes. Ah oui, des paillettes.
Des paillettes partout.
T'es chaud toi, Beth?
En fait, je sais très bien comment ça va finir. On va aller en boîte, je vais me saper, je vais me suivre. Et en fait, je vais juste être le mec, quand il y a des mecs relous qui viennent vous coller, vous allez revenir vers moi pour que les mecs vous laissent tranquille. J'ai passé ma vie en boîte, c'est ça. C'est pour que mes potes meufs puissent danser tranquille et que s'il y a un mec qui les fait chier, elles viennent danser à côté de moi.
Ah mais moi j'adore refouler les mecs relous.
J'ai l'impression que
je suis vraiment très dégueulasse avec les mecs relous. Je suis très agressive.
Si je peux être tranquille au bar et être copain avec le barman pour qu'il me paye des shots et que vous dansez tranquille, je suis méga chaud, je vous suis.
Cette ère là est arrivée, Bat.
Enfin, je vais pouvoir retourner en boîte. Je crois que c'est une des raisons principales pour lesquelles j'aime plus les boîtes.
Et tu pourras profiter pour toi.
Cool.
Voilà, des mojitos à 37€.
Allez, c'est le principe, je les paierai pas justement. Allez.
Eh ben allez, on va se saper en mode disco.
Un petit biscuit au Beaufort.
Et on va passer la nuit en boîte. On l'a perdu. Merci les filles, merci Valentine, merci Sophie. C'était
vous,
un vrai plaisir de vous avoir. On vous souhaite une belle continuation et au plaisir de se retrouver sur scène.
Oui. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Très bien.
Au revoir.
Salut.
Merci d'avoir écouté cette émission. Le générique et toutes les musiques de ce podcast ont été composées par Nicolas Beignet. Merci à lui, ainsi qu'au studio Aircom Rhythm. Merci également à Maxime Guerville pour les visuels de l'émission. Pour connaître toutes les informations sur les prochaines émissions, suivez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram. Toutes nos émissions sont diffusées en live sur Instagram avant d'être disponibles en podcast. N'hésitez pas à nous laisser une note sur Apple Podcasts. Thank you.